Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je me suis fait un défi avec mes amis. Il y a quelque chose à gagner, des Patek et des Rolex.
Ouais, je suis plus gaucher.
Et les pénaltys, vous ne tirez pas du droit?
Si.
Pourquoi?
Parce que je tire mieux du droit.
How is your English? Oui, non.
Il a dit pas.
So bad,
ok.
Passez le bonjour à Daniel Riolos.
Jusqu'à minuit 30, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, le PSG est en finale, messieurs, dames, et l'after est là jusqu'à minuit et demi ce soir avec une équipe de rêve ce soir. L'after en direct sur RMC, l'after en direct sur After Foot TV, l'after en direct sur la chaîne YouTube de l'after, l'after en direct du Dopo, le restaurant de l'after où il y a encore beaucoup de supporters du PSG qui sont là ce soir et bien sûr qui fêtent cette qualification en compagnie de Daniel Riolo. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis, c'est une ambiance de dingo ce soir au resto, vraiment. Ouais. C'est exactement pour ça, et quand on a imaginé cet endroit, c'est ce qu'on voulait. Et il va y avoir la Coupe du Monde bientôt. Si on enchaîne le PSG en finale là et les Bleus qui font un super parcours, c'est exactement ce qu'on avait rêvé pour cet endroit.
Emmanuel Petit est là également. Salut Manu.
Bonsoir tout le monde.
Manu,
en espérant que vous en ouvriez d'autres dans toutes les villes françaises.
Pour l'instant, on va faire la fête ici, c'est bien déjà.
Concentrons-nous sur le match. Samuel Umtiti est là. Samuel, bonsoir.
Bonsoir à tous.
On a les supporters parisiens avec nous. Franck est là. Salut Franck. Franck.
Attends, Franck, non seulement il n'a plus de voix, mais si on lui coupe le micro, vu la fête qu'il
bonsoir,
a fait ce soir.
Bonsoir à tous. Merci. Salut, pour Franck. L'ambiance. J'ai plus de voix. C'est dingue. J'ai pas les mots.
Évidemment, on va analyser le match. Évidemment, on va faire l'évaluation des joueurs. On va voir les réactions. On va parler de la finale le 30 mai prochain à Budapest face à Arsenal. Donc, et puis on va retourner au stade parce que Jean-Louis Tour est avec nous, comme lors de chaque soir de grand match. Salut Jean-Louis.
Salut tout le monde. Salut Gilbert.
Ah, l'ambiance là, c'est comment à Munich, Jean-Louis?
Ah bah l'ambiance, c'est les Parisiens qui la mettent. Hein. Les 3700 supporters parisiens, ils sont toujours là et qui continuent de chanter. Alors les derniers Parisiens sont rentrés il y a quelques secondes dans les vestiaires. Il y a les Munichois encore devant nous qui ont fait un tour d'honneur, un peu de dépit pour saluer quand même les supporters.
Une tournée d'adieu un peu.
C'est ça. Et les Parisiens, il y a eu des scènes marrantes avec Pacho notamment qui a récupéré le trophée d'homme du match. Donc il s'est fait peu chambré par tout le monde. Voilà, les Parisiens qui ont vraiment célébré ça comme si c'était un titre remporté. C'était de vraies belles images qui rappelaient ce qui s'est passé il y a un an.
Bon, on va faire les deux points chacun. Et après, on va parler un peu de l'aspect historique de cette soirée parce que c'est une page d'histoire du PSG et du foot français qui s'écrit ce soir. Jingle.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les trois points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Deux points ce soir, Daniel.
Le premier, oui, moi je pense qu'il faut parler de ce que c'est en termes d'histoire. Oui, le PSG était déjà dans l'histoire, il l'est encore plus avec une deuxième finale de suite. C'est tout simplement étourdissant. Et mon point 2, je le dis depuis pas mal de semaines maintenant, oui, je suis convaincu que ce PSG est encore plus fort que l'année dernière. Il l'a montré et c'est confirmé parce que maintenant, avec cette finale en plus, oui, ce PSG est encore plus fort que l'année dernière, malgré tous les doutes que certains ont pu avoir tout au long de cette saison. C'est franchement incroyable ce qui s'est passé cette année.
Samuel.
Mon point numéro 1, je dirais que c'est le Paris Saint-Germain. Bien sûr, c'est historique ce qu'ils ont réussi à faire. Et honnêtement, aller en finale deux fois d'affilée consécutivement, c'est pas simple du tout, surtout dans le football actuel. Il faut se rendre compte de ce que le Paris Saint-Germain vient de faire. Et mon deuxième point, c'est la défense. J'ai trouvé une équipe défensive très forte. Pacho qui m'a pas surpris, mais ça m'a fait du bien de voir un défenseur à ce niveau-là et avec une charnière avec Marquinhos.
Surtout pour moi, qu'il y a une semaine, on disait que les défenseurs avaient été mauvais.
Exactement.
Ce qui était une erreur selon moi.
Une grosse erreur.
Ouais. Manu.
Alors moi, c'est deux points, c'est ça?
Deux points.
Ok, mon premier point, c'est Arvidas Zen Bayern et John Apot, comment on dit déjà?
John Apot.
Ouais, ça veut dire bonjour. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'on le dit en hongrois.
Il a bossé. Attends, bravo, Manu,
Donc avec, j'ai beaucoup aimé le
comment
match du Paris Saint-Germain.
Comment on dit bonjour à Budapest? John Apot.
John Apot.
Mais où t'as révisé ça quand?
Je suis sur Internet.
Ah, sur Google Trad depuis tout à l'heure.
Ah oui, attends.
C'est ça. Il avait préparé.
Laisse-moi finir mes deux points.
Bravo.
Avec, j'ai beaucoup aimé le match du Paris Saint-Germain à tous les niveaux, dans son unité, dans cette volonté justement de faire mal au Bayern, mais surtout quand je vois le banc à la fin du match qui se lève, à chaque fois que tu gagnes un ballon, t'as un tac, ça montre pour moi une détermination sans faille. Et je trouve que le Paris Saint-Germain a mérité sa qualif en finale. Et je suis d'accord, c'est exceptionnel, encore plus deux années consécutives. Mon deuxième point, ça va pas vous plaire, tous les aficionados du Paris Saint-Germain, c'est un fait de jeu à la 30e minute. Deux faits de jeu qui pour moi auraient pu avoir une conséquence incroyable sur ce match-là. C'est à la fois l'expulsion de Mendes, parce que pour moi il y a une expulsion, il n'y a aucun doute là-dessus, et le pénalty derrière qui s'en est suivi, parce que les règles sont quand même floues, c'est toujours sujet à interprétation, et je trouve qu'on est loin de l'interprétation et que normalement il aurait dû siffler un pénalty.
On va y revenir tout à l'heure, mais restons un peu sur le côté historique quand même. Donc pour la première fois, un club français joue une troisième finale de Ligue des Champions. L'OM l'a fait deux fois, Reims l'a fait deux fois, et puis
Paris.
Monaco, Paris, Monaco l'a fait une fois. Mmh. Voilà.
Tu veux dire dans la C1 ?
Dans la C1. Ah, oui. Saint-Etienne l'a fait une fois.
Oui.
Donc Paris devient le seul club de l'histoire du foot français.
2020, 2025, 2026.
Et pour être le seul club à le gagner deux fois.
Et très honnêtement, aujourd'hui, à mon sens, ils sont même favoris pour la gagner une deuxième fois de suite. Et pour marquer l'histoire encore plus, à l'image des équipes qui ont marqué leur époque, exactement comme on l'a répété depuis pas mal de semaines maintenant, parce qu'on anticipait un petit peu ce qui allait se passer, comme l'Ajax des années 70, le Bayern des années 70, comme le Milan des années 80, comme le Real des années 2010, parce que le Barça a jamais fait deux de suite. Souvent on cite le Barça, mais le Barça d'affilée, non, mais ils ont quand même marqué leur époque parce qu'ils ont eu une très grande période de domination aussi. Mais on est dans ce gratin là. On est en haut du plat là, avec les pommes de terre grillées. Là, on est dans le gratin total, quoi. Là, le PSG est vraiment au sommet du football mondial et de l'histoire.
C'est important ça, les gars. Enfin,
c'est important.
C'est important de marquer l'histoire. Oui.
Parce que tes petits-fils qui feront l'after, ils citeront cette époque-là.
Merci Daniel de me laisser 30 secondes pour parler.
Non, je parlais des enfants.
Non, mais je te remercie de ta générosité. On en est tous conscients que c'est très difficile de parler quand tu es avec nous.
Non, et surtout quand le Paris Saint-Germain, là c'est impossible.
Excusez. Vous n'en faites pas, messieurs, je suis là.
Non, bien sûr que.
Je suis le dernier rempart avant la barbarie.
Regarde l'attitude des joueurs. Pour moi, c'est typique, en dehors du talent intrinsèque individuel et collectif et de ce qu'ils sont capables de réaliser depuis deux ans ensemble, cette unité qui est quand même rarissime à trouver dans le monde du football. Parce que même si les victoires amènent le ciment, tu as quand même une extra motivation qui unit les joueurs, qu'on appelle le bon vivre ensemble. Il n'y a pas d'ego particulier. Et je trouve que les joueurs s'aiment véritablement. Et il y a une honnêteté incroyable. Je faisais référence justement au banc de touche, mais je l'ai vu à maintes reprises durant ces qualifications. Et je trouve que ça, c'est la marque des équipes qui veulent marquer leur époque. À travers des résultats, des titres, mais également sur l'image qu'elles dégagent.
Moi qui suis pas, c'est ça, le groupe est du talent. Le groupe est du talent.
Moi qui suis pas un supporter du PSG à la base, je suis en admiration ce qu'ils font. Et je leur souhaite vraiment de marquer encore plus leur époque, parce que c'est très rare. Il y a des équipes qui ont marqué leur époque. Il y a eu le Barça la dernière fois. Avant ça, il y a eu le Real également, les trois Champions League consécutives.
Il y a eu Milan, il y a eu l'Ajax.
Oui, mais toutes les équipes qui marquent leur époque. Ça serait bien qu'une équipe française le fasse.
Oui, mais toutes les équipes qui marquent leur époque sont au fond admirées par les autres. Parce que ce que tu remarques, c'est quelque chose qui est absolument indéniable. C'est que tu as toujours un groupe très fort. Qu'à l'intérieur de ce groupe, tu as des bons joueurs qui se détachent, qui deviennent des stars. C'est comme ça que on marque.
Il y a pas d'ego dans cette équipe.
Ouais, mais moi j'ai envie de dire.
Il y en a, mais il est au service du groupe.
Ouais, mais
bien sûr qu'il y en a.
Il y en a. Mais j'ai envie de dire que c'est franchement
au détriment du groupe.
Non. Mais Luis Enrique, je pense qu'il y est pour beaucoup.
Ce qu'il a fait, c'est le gendarme.
Exactement. Ce qu'il a construit, cette équipe qu'il a construit. Et comme vous le dites si bien, c'est que c'est une équipe. Certes, il y a des individualités, mais ce que Paris a réussi à construire dans ce projet où Paris a fait des erreurs pendant des années, et là, avec Luis Enrique, ce qu'il a ramené,
Messi.
Exactement.
Sans Neymar,
Messi, sans des stars.
Mbappé,
et au final, le plus important, c'est l'équipe.
Voilà.
Exactement.
Franck, tu mesures l'importance que ça a pour ton club, là ?
Ouais.
Tu te dis, je vis mes années de rêve ?
Ouais, là, on vit l'âge d'or du Paris Saint-Germain, faut pas avoir peur de dire les termes. Deuxième finale en deux ans, la troisième en sept ans. Moi qui suis né en 89, c'est un truc de ouf, désolé du terme. Là j'ai plus de voix, il y avait une grosse ambiance. Je vais tout faire pour aller à Budapest. Voilà quoi, c'est le club de mon cœur.
Tu sais que vous serez obligé de rentrer tout de suite après le match.
Tu sais que c'est à 18h la finale.
Ouais, c'est à 18h, ouais, je sais que c'est à 18h.
Ils veulent pas que vous restiez.
Ils veulent pas que vous restiez à Budapest.
J'ai déjà réservé ma chambre d'hôtel.
Est-ce que t'as autant d'émotions que l'an dernier, au même moment où t'es allé en finale ?
Ouais, j'ai autant d'émotions. Pourquoi ? Parce que avec ce qui s'est passé à l'intersaison, moi personnellement j'y croyais pas. Je pensais qu'ils allaient lâcher en janvier-février. Et au final, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a une préparation, ils ont su répondre. Aux attentes.
On va revenir sur la saison parce que ça valide aussi la stratégie de la saison finalement.
Ouais, moi personnellement, je pensais pas qu'ils allaient aller en finale cette année, mais plus le temps passait et plus j'y croyais. Donc c'est parfait pour tous les supporters du PSG. Je pense que ce soir, on est tous heureux. Maintenant, il reste 3 matchs, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, gagner le titre et être focus sur Budapest, ce sera encore une année de dingue avant la Coupe du Monde.
Bon, on va parler de la finale tout à l'heure, parce que je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que le PSG est favori.
Oui.
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 Ouais, bon, ouais, ouais. Bien sûr. Oui. Ouais.
Mais ça veut rien dire.
Ouais, voilà. C'est un match.
Mais ça veut rien dire.
Il peut tout se passer sur un match. Après, on connaît le Paris Saint-Germain. Ils sont capables du meilleur comme du pire.
Ah mais non, le pire, ils sont plus capables maintenant. Maintenant, c'est terminé cette vieille phrase que le PSG a traîné pendant des années. Non, vraiment, ils sont ailleurs maintenant. Ils sont ailleurs maintenant. Il y a toutes les années de galère, toutes les erreurs. À partir du moment où ça s'est corrigé dans l'année dernière, derrière, moi, j'ai toujours été convaincu que ce qui était en train de se passer, en tout cas dans cette saison, le recrutement que soi-disant on n'a pas fait, la première saison ratée, tout a tout le temps été calibré. On sentait que il y avait beaucoup de rationalité dans tout ce qui était fait. C'est pour ça que j'ai dit petit à petit que cette équipe, elle était même meilleure que l'année dernière. C'est pas parce que t'as pas recruté que les joueurs, ils se sont reposés dans la première partie de saison. Et on est dans un championnat facile dont ils profitent pour tout mettre en œuvre pour être bon à partir du mois de février. C'est exactement ce qui s'est passé. Le meilleur comme le pire, c'est terminé.
Mais ils en avaient besoin.
Ils sont capables du meilleur.
Ils en avaient besoin parce que la préparation, ils n'en ont pas eu.
Ouais.
Donc ils avaient besoin aussi.
Mais tout a été pensé.
Ouais, tout a été pensé. C'est ce que je disais. Et qu'à un certain moment, il y avait pas mal de gens qui doutaient de leur niveau physique, s'ils allaient arriver à tenir.
Ils vont s'écrouler. Mais il y en a eu des blessés.
Mais il y en a eu, mais encore heureux, c'est normal, avec une saison précédente qui a été énorme, avec énormément de matchs. Mais là, cette saison, pour moi, ils ont été très très forts. Leur groupe, Luis Enrique, il était
top. Ils sont plus forts même que l'année dernière.
Je sais pas.
Et tu sais, à un moment, le seul truc où j'avais un petit bol, c'est est-ce qu'il y aura autant d'émotions? Parce que quand tu l'as attendu pendant tant d'années, quand tu as galéré, parce que le PSG a vraiment été humilié pendant des années en Coupe d'Europe. La libération, la délivrance que ça a été de gagner enfin contre toute attente, parce que au début de la saison dernière, personne voyait le PSG aller au bout. Je me suis dit ouais, peut-être que cette année ce sera. Moi, j'entendais plein de gens qui disaient oh, on l'a fait une fois, maintenant advienne que pourra. On est tellement soulagé. Et en fait, petit à petit, c'est remonté à nouveau l'émotion. C'est remonté. Et là, tu vas voir que sur la finale, si ça gagne, ils seront encore plus heureux que l'année dernière.
Casse pas la tête non plus.
Là-dessus, plus heureux que l'année dernière, tu verras.
Alors Jean-Louis, là-dessus, toi qui as vu à peu près tous les grands matchs de Paris.
Exactement. C'est ça que je voulais dire. C'est là où je suis d'accord désormais avec Daniel. Moi, il me fallait le match du Bayern pour être sûr qu'ils étaient meilleurs que la saison dernière. Maintenant, je peux être d'accord avec lui sans problème. C'est mentalement le fait d'avoir gagné. Évidemment, ça te soulage et ça fait que t'abordes les matchs différemment. Mais l'autre truc que je trouve assez exceptionnel, c'est en termes de motivation. Et ça a été le fil rouge tout au long de la saison. Ça a été une question qu'on a posée dès la Super Coupe d'Europe à Udine. Je me souviens très bien à Luis Enrique et à Marquinhos. Comment vous allez faire pour vous remotiver? Alors que vous avez atteint, surtout à Marquinhos, alors que vous avez atteint le truc que vous cherchiez depuis 12-13 ans. Et la réponse de Marquinhos, je trouve, était déjà exceptionnelle. Et ça a été leur discours toute l'année. On veut marquer l'histoire, on sait que c'est important, etc. Et j'ai l'impression que ce truc-là les a habités du début à la fin. Et ils se sont jamais dit, c'est bon, on est arrivé, on a enfin gagné cette Ligue des Champions. Ils sont repartis bosser et ils sont repartis en mode compétition très vite, en tout cas mentalement. Ça n'a pas été le cas physiquement à cause des blessures, etc. Mais ils avaient cette conviction que ce serait aussi important d'aller en gagner une deuxième que la première qu'ils ont déjà gagnée.
On écoute João Neves, première réaction, c'était sur Canal il y a quelques secondes.
On fait la fête, c'est toujours un plaisir de passer à un final plus et on est très fiers de notre chemin, qu'est-ce qu'on a fait ici, qu'est-ce qu'on a fait pendant la Champions League. On fait la fête et je pense que c'est un moment de célébrer et d'être avec notre groupe, notre famille, tout le monde qui nous a aidé pour arriver ici.
Ouais, Samuel, le PSG est plus fort que l'an dernier?
Je pense que oui, dans leur peut-être la mentalité qu'ils ont, je les trouve beaucoup plus forts, beaucoup plus sereins. Même dans des situations compliquées comme là, le Bayern, pour moi, c'était une top équipe. Et au final, tu vois comment ils ont pu gérer ces deux matchs, ces deux rencontres. Pour moi, ça a été géré de la meilleure des manières. Certes, il y a eu un premier match où ils auraient pu gagner 5-2, ils ont pris des buts à la fin, mais j'ai trouvé une équipe très sereine, mais vraiment forte, sûre d'elle, à tous les niveaux. Donc,
on voit jamais un visage paniqué, à
aucun moment. Même si je pense que sur le match retour, le Bayern a eu des manques.
Oui, il faudra parce que le Bayern n'est pas à la hauteur technique. Du rendez-vous. Hein,
non,
ce soir.
Quand tu vois Olysée, le match qu'il fait,
voilà.
Oui, mais je pense quand même que. On doit quand même parler du match de Paris qui était très très bon. Ah oui.
C'est le PSG qui fait que le Bayern n'a pas été au niveau. Olysée, il s'est fait manger par Nuno Mendes en première mi-temps. C'est pour ça qu'il est moins bon qu'à l'aller.
Non, ça, alors, sur ce point, je suis pas d'accord. Je pense que le Bayern ce soir, parce que Paris, on vient de dire tout ce qu'ils ont fait de formidable. Le Bayern ce soir n'est pas capable, visiblement, une semaine après l'autre, de reproduire ce niveau de performance. Et c'est ça qui fait que tu es une très grande équipe, un très grand champion. Luis Diaz a été excellent. On va dire que la semaine dernière, c'était 9 sur 10, 10 sur 10, autant que tu veux. Ce soir, c'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il est à 7. Donc, il est encore pas mal. Même 6 si t'as envie.
Gentil,
oui, d'accord. Je vais 6. Prends 6 si tu veux.
Mais Olysée. C'était Kevin Diaz.
Sauf que Olysée, lui, de 9, il est passé en dessous de la moyenne aujourd'hui.
Oui.
Et cet écart-là, quand on parlait de ce qui fait une grande équipe, c'est un grand collectif. Moi, ce soir, le collectif du Bayern, j'ai rien à lui reprocher. Il est là, le collectif du Bayern. Les mecs se battent, les mecs ont la même envie. Ah, les mecs, ils vont.
Attends,
je termine ma phrase. Le collectif du Bayern, je lui reproche rien. En revanche, 2-3 individualités qui ont été en dessous, qui n'ont pas su tirer l'équipe à eux, je leur en veux. Olysée a été en dessous, Diaz n'a pas été aussi bon que la semaine dernière, même si je ne lui jette pas la pierre, je ne dis pas qu'il a été mauvais. Un Pavlovic a été moins bon que la semaine dernière. Il y a des joueurs qui ont été moins bons que la semaine dernière.
Sur le pourquoi, on n'est pas d'accord en fait. Pourquoi ils ont été moins bons?
C'est toujours des vases communicants. Parce que le PSG est capable de faire deux matchs d'un excellent niveau et le Bayern un peu moins, c'est tout.
Pour moi, les défenseurs du PSG ont été piqués par ce qui s'est passé la semaine dernière. Et je l'ai vu dès les premières balles de Nuno Mendes qu'il a voulu rentrer dans Olysée. Il a gagné ses premiers duels contre lui.
Première chose. Il est arrivé en tombe la semaine dernière.
Deuxième chose,
c'est juste que d'un grand champion, c'est être bon toutes les semaines. Et Olysée, il n'a pas encore ça, c'est tout.
Là, moi aussi, je vais finir ma phrase. Je pense que Zaïre Emery, il a aussi bien mieux pris Luis Diaz en 1 contre 1. Et aussi, le truc fondamental par rapport à la semaine dernière,
c'est qu'il a bien moins pris parce qu'on n'a pas laissé Marquinhos tout seul.
Je vais la finir la phrase. Je vais la finir, après ce sera bon. Dans le jeu, il n'y avait plus ces fameux 1 contre 1 qu'on a vu au Parc des Princes. Il y avait des prises à deux. Olysée, bien souvent, il y a eu prise à deux avec Ruiz qui venait aider Mendes. De l'autre côté, Luis Diaz, il y avait également Neves qui venait aider. Tout ce qu'on n'avait pas vu la semaine dernière avec des 1 contre 1. Le 1 contre 1, Marquinhos complètement seul face à Luis Diaz, on l'a pas vu ce soir parce que je pense aussi que Luis Enrique il a calculé pour que sa défense soit moins exposée. Donc individuellement ils ont été meilleurs et voilà. Et c'est pas juste comme ça le Bayern qui est moins
en désaccord avec tout ça.
Ah non mais moi j'ai été impressionné par le pressing constant sur le porteur du ballon, à fermer toutes les possibilités pour le joueur du Bayern qui avait le ballon de pouvoir transmettre le ballon. À chaque fois, ils arrivaient dans la zone à deux ou trois joueurs. Ils bloquaient toutes les possibilités. Ils ont étouffé.
Donc, tu es d'accord avec moi, Manu?
Oui, je suis d'accord avec toi. Ils ont étouffé le Bayern. Et pour revenir sur ce que tu dis, que collectivement, le Bayern n'a pas manqué son match. C'est ça que tu es en train de me dire?
Collectivement, oui.
Comment tu expliques alors qu'au bout de 2 minutes de jeu, tu prends un but?
T'as le droit de prendre un but.
Ah non, t'as pas le droit. Quand tu joues à domicile sur un match demi-finale de Champions League, tu t'appelles le Bayern. Tu peux pas prendre un but de cette manière-là.
Tu peux pas prendre un but.
Avec Dembélé,
tu peux prendre un but.
J'enlève pas les qualités du Paris Saint-Germain. C'est pas ça. Je suis en train de dire. Que regarde le but. Comment il a été amené? Comment il a été construit? Comment il a été fini? Dembélé, il peut même faire 3 pompes s'il veut avant de tirer.
Ouais, ça c'est interdit. Ah, au bout de 2-3
minutes de jeu,
c'est impossible.
Allô.
C'est pour ça que je te réponds.
Tu joues à domicile.
Je te réponds parce que tu me posais la question. Je pense que le début de match du Bayern était assez timoré.
Oui,
je pense que.
Donc, collectivement.
Mais ça a duré très peu.
Ouais, mais ça leur a plombé. Ça leur a plombé le match.
Ça les a tués.
Ça leur a plombé le match.
Par la suite, là où toi, tu vois, avec Jean-Louis, vous voyez un déficit collectif, moi, je vois juste une approche du match qui a été différente du PSG parce que la plupart du temps, ils ont été bloc bas. Contrairement à l'aller où ils ont essayé, comme ils en ont l'habitude, d'être plus haut. Là, ils sont descendus, ce qui favorise les prises à deux dont parlait Jean-Louis, ce qui favorise en plus le jeu défensif. Quand t'es bloc bas, toute ton équipe, elle est plus basse et tes lignes sont plus retirées vers le bas.
Le jeu technique du Bayern ce soir, collectivement.
Mais en fait, il a été le jeu technique du Bayern. Il a été également enrayé.
Le nombre de passes perdues.
Mais oui, c'est vrai. Mais parce que le bloc du PSG était
c'est collectivement. C'est collectivement qu'ils ont perdu.
Mais ils ont laissé beaucoup moins d'espace.
Ce qui a empêché les individualités de pouvoir s'exprimer.
Ce que toi tu dis, c'est ce que je comprends de ce que tu dis, c'est des erreurs techniques. Le Bayern a fait beaucoup d'erreurs techniques.
La réponse du PSG au match aller quand ils perdent 5-2 et qu'ils reviennent à 5-4, c'est une réponse collective.
Ils n'ont pas reculé, parce qu'ils n'ont pas fermé, ils n'ont pas reculé. Le PSG n'a eu aucun mal à reculer. Ils ont reculé. Ils ont accepté d'être dominés. La deuxième mi-temps, ils ont accepté.
Moi, je pense que c'est un mix des deux. Je pense que sur le match aller, tu vois le Bayern qui était très juste techniquement et ils ont réussi à revenir à 5-4. Et là, c'était impossible. Parce que même des passes simples, ils n'étaient pas capables de les faire correctement. Mais si, moi, il y avait de la place, faut pas me dire ça. Non, tu joues tel Bayern. Mais c'était serré.
Paris était hyper compact.
Mais c'est des joueurs qui ont la capacité de le faire.
Bon, les gars,
ils l'ont fait à plusieurs reprises. Mais là, je suis désolé que sur ce match-là, collectivement, ils n'ont pas été bons. Et techniquement, ils n'ont pas été bons
Ils ont été mauvais.
Ils étaient mauvais. Non, c'est
la réalité. Ils ont tué un incalculable de pigeons derrière les buts aujourd'hui.
Franck, t'as conscience que t'as deux champions du monde en face là?
Ouais. C'est un truc de ouf. J'ai vu les deux finales.
Bah heureusement, heureusement que tu les as vues.
Je suis
quand
89,
même.
Numéro 17, petit.
89, t'es
Eh oui.
Ah, tu sais que Manu, je t'ai pas vu, moi.
Tu les fais pas, dis-moi.
Tu sais que Manu, je t'ai vu. Je me souviens pas.
Je sais que vous,
déjà, quel âge j'avais 35 ans, ouais.
Mais non, à ce moment-là,
je me souviens pas, moi.
C'est Eugène Sam, il était tout petit.
Je me souviens même pas, c'est absurde.
Je me rappelle d'ailleurs, il faisait jouer avec son ballon, il était un gamin. J'ai dit, dégage là, laisse-moi tranquille, j'ai dit.
Bon, comment
c'est fou, j'imaginais pas que t'étais si petit.
Comment tu vas t'organiser pour la Budapest là? T'as déjà des pistes ou...
j'ai déjà réservé ma chambre d'hôtel via Booking.
Pas mal.
La chambre d'hôtel,
je peux être plus simple. Mais les billets d'avion, là, je pense que ça doit être en train d'exploser. Et même les places...
Je peux appeler William Gallas, il habite là-bas.
Gallas, c'est de Budapest.
William, je suis allé le voir, moi, à Budapest. Il habite vraiment dans le centre.
C'est pas rentré
par l'oreille d'un sourd. Il habite dans le centre. Il a plusieurs chambres dans son appartement.
On va se débrouiller. Sinon, je viendrai
en voiture. En voiture, est-ce que t'as idée de quoi?
Tu sais le temps qu'il faut en voiture?
Tu veux le savoir ou pas? 14h.
Il faut 14h en bagnole?
Pour le Paris Saint-Germain.
Paris-Budapest, 14h en bagnole.
Sinon, je sais pas. C'est pas les 14h de route qui sont impressionnantes, c'est ce qu'ils vont faire pendant les 14h de route.
Non.
Il faut deux jours.
Non, je sais pas.
Prends un hôtel en Autriche.
Soit l'avion, je sais pas, on va voir. Tout
l'avion,
le
billet, il a 1200 euros le billet.
Il doit être, peut-être l'aller.
Le PSG vont peut-être affréter des avions.
Non, mais le PSG, ils vont affréter. Le PSG va proposer des packages.
J'espère, sinon
il faut juste se jeter dessus.
Voilà, excellente idée.
Sinon, on sera là pour la finale.
On peut s'ouvrir en un dopo à Budapest d'ailleurs. Donc,
merci
pour l'invitation.
Dans un instant, on revient sur le match. Bien sûr, on continue l'analyse, l'évaluation à suivre, les réactions. Et vos appels au 32-16, n'hésitez pas évidemment à partager votre émotion. Ce soir, le PSG est en finale de la Ligue des Champions. Ce sera donc le 30 mai prochain à 18h à Budapest face à Arsenal. D'ailleurs, tout à l'heure, on se projettera vers la finale. Paulo Breitner sera également avec nous. On est là jusqu'à minuit et demi. Dans l'after, à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit 30, l'after foot.
Gilles Darbribois.
Il est 23h27, messieurs dames, l'after est en direct jusqu'à minuit et demi avec Daniel Riello, avec Palu Petit, avec Samuel Oumtiti, avec Raphaël qui est avec nous, supporter du PSG. Salut Raphaël.
Super, salut les gars.
Raphaël, tu étais avec nous ce soir ici au Dopo. Bon, écoutez Désiré Doué, avant qu'on parle d'arbitrage,
ouais,
Désiré
Doué,
il y a... Tu connais tout le monde toi ici.
Bah, il est venu me dire et en fait je m'en suis rappelé à Malte il y a quelques mois de ça, oui. Yes. Dans un bar. Malte.
La belle vie, hein.
Bon, Malte dans un bar. Ok, très bien.
Moi je voulais aller voir justement les scènes de tournage de Gladiator.
Ok, très bien.
Non, il met bon.
Bon, écoute Désiré Doué.
C'était un match exceptionnel, une nuit magique encore ici à Munich. On en a joué contre une très très grande équipe, faut les féliciter pour tout ce qu'ils ont fait en Champions League, ce qu'ils font en championnat aussi, ils ont des joueurs extraordinaires. Et voilà, c'est des matchs comme ça qu'on a envie de jouer depuis petit, c'est un rêve encore qui se réalise de retourner en finale de Champions League. Maintenant on va fêter ça tranquillement en équipe, on va profiter de ce moment forcément, mais on reste humble, on sait qu'il y a encore des choses à faire en Ligue 1 aussi, et après en Champions League, il faudra aller gagner la finale.
Parlons un peu arbitrage. Donc, Manu, tu disais tout à l'heure, la règle est floue. Je parle de la main.
Elle n'est pas floue. Je parle de la main. Sauf que l'interprétation devient floue.
Je la rappelle. En fait, quand tu as une main suite à un dégagement d'un coéquipier, la règle dit s'il y a proximité entre les deux joueurs.
C'est ça, en fait.
Il n'y a pas pénalty.
C'est le mot proximité qui, pour moi, amène justement un brouhaha, en fait.
Donc, ça, c'est la règle. Comme on s'est renseigné, on a eu des retours d'arbitres de haut niveau qui nous disent effectivement pas pénalty, il n'y a pas d'erreur d'arbitrage, ça, c'est bien arbitré.
Oui, enfin, proximité
pour. Toi, tu dis où s'arrête la proximité.
Exactement.
En fait.
Pour moi, proximité quand tu as un joueur de football sur le terrain, c'est 1 mètre, 1 mètre 50 maximum.
Ouais, mais
2 mètres.
Toi Mais en fait, le propre du foot depuis toujours, et à chaque fois on bute là-dessus dans des discussions à mon sens un peu inutiles, c'est que de toute façon c'est une interprétation. Ce qui est pour toi une proximité, on a demandé à plein d'arbitres, les premiers avaient l'air absolument catégoriques, 100%, il peut pas y avoir péno, et puis finalement on a trouvé qu'ils disent oui mais l'interprétation pourrait conduire à... Ok, très bien. Donc ça reste.
Daniel,
donc
comme c'est de l'interprétation, j'ai vu plein de pénalties sifflées.
Ok, mais c'est de l'interprétation.
Mais c'est ce que je te dis.
C'est comme à l'aller, le péno,
s'il avait
la main
de Alphonso
Davies, si... je la trouve ridicule. Si... Il se... voilà, mais
s'il avait été à 2 mètres sur, la, le... sur le renvoi de Vitinha, mais... j'aurais dit il y a pas de souci, il peut rien faire.
C'est de l'interprétation.
Il est facilement à 4 mètres, voire 5 mètres. Et donc si j'appelle ça une proximité, on n'a pas le même langage en tant que footballeur sur un terrain. Tu vois,
mais ça arrive. Donc c'est pour ça.
Ça arrive. Et ça arrive aussi le fait que Mendes ne se fasse pas expulsé alors qu'il y a une faute.
Je pense que là,
délibérée.
Je pense que là,
juste avant ce fameux penalty.
Encore une fois sur cette interprétation. Là, j'irais plus dans le camp de ceux qui disent qu'il est passé tout près du rouge. Mmh. Effectivement.
Ah, donc, mais il rouge.
Oui, je pense. Mais je pense que oui.
Il mérite le rouge.
Mais oui, je le dis. Je suis.
Pour
je
finir sur
que,
la règle.
Je te dis que sur ce point-là, je suis d'accord.
Sur la main là. Ça s'appelle le dégagement allié, comme les alliés.
Voilà. Le dégagement allié. Il a combien? Il est pas à 2 mètres quand même.
Écoute, je sais pas combien il est exactement.
C'est de l'interprétation, encore une fois.
C'est ce que je te dis.
Et ben donc, si c'est de l'interprétation, on peut faire les deux. Donc ça discute pas. Voilà, c'est.
Ben si ça discute, parce que
Jean-Louis,
tu vas prendre 10 arbitres, on a 5 qui vont siffler péno, 5 non.
Et donc
après, ça met le bois pour les joueurs. On connaît pas les règles en fait.
C'est comme ça le foot.
On se dit tiens, il va siffler penalty sur tel au moment où je pivote comme le match allait. Tu vois là, c'est qui est-ce qui fait la main?
C'est Davis comme ça.
Davis qui fait la main. Il y a une faute parce que, soi-disant, ça mène un centre. Pour moi, il y a pénalty.
Eh ben, pour moi, pas à l'aller.
Bah, tu vois.
Eh ben, donc.
Bah, c'est derrière qu'on s'en sortira jamais.
Eh ben, y a pas
à force de changer tous les ans.
Eh ben, on s'en sort pas.
Ouais, je sais pas.
Mais frappe, c'est l'histoire du foot.
Le dégagement allié à proximité de vous à moi, sincèrement.
On s'en sort pas, justement.
Mais
laisse
alors. Mais toi, Daniel, tu penses vraiment qu'il a proximité?
Samuel, vas-y.
Non, il sait très bien. Proximité,
je te dis que je ne pense pas. Non. Donc je laisse l'arbitre penser pour moi. Voilà.
Donc il y a péno.
Et je dis que là, en l'occurrence, il se trouve que tous les faits de jeu.
Péno, pas péno.
Pour moi, il y a pénalty.
Bah oui,
bien
y a
évidemment.
Péno. Évidemment qu'il y a péno.
Proximité, pour moi, t'as 1 mètre, 2 mètres.
Ce qu'ils veulent, hein.
Quand tu joues, tu sais très bien. Quand t'as un coéquipier qui est juste à côté, tu le tires dessus, c'est compliqué. Mais là, t'as quand même 4, 5, 6 mètres. Et t'as ce temps quand même d'éviter le ballon, de faire quelque chose.
Il a une chance sur peut-être 10 de taper son coéquipier.
Mais comme on a dit, en ce moment, la chance que, par exemple, avait le Real Madrid, je trouve que Paris.
Maintenant, c'est ça.
Ah oui, bah, bien évidemment.
Ça, je suis d'accord.
La domination psychologique, elle est
sur. Ah bien évidemment. Là, Paris,
le PSG, ça fait 2 ans, il n'y a pas une décision qui ne va pas dans leur sens.
Bien évidemment.
Qu'est-ce que tu voulais dire là? Parce que je comprends pas en fait.
Parce que ça arrive.
Tu sais qui veut pas comprendre.
Vous êtes en train de mettre sur la même ligne le Real Madrid et le PSG avec l'arbitrage. Le Real Madrid pendant très très longtemps, c'était très bizarre.
C'est exactement ce qu'il dit.
C'est en train de se passer.
Et pendant longtemps, ça a été défavorable au PSG en Ligue des Champions.
Mais le PSG, ils se sont fait fourrer pendant des années. Il y a tout, mais c'était tout.
La main de Kimpembe contre Manchester.
Le match de Kimpembe contre Manchester, il n'y a pas eu un braquage pareil, sans parler de Ziad Takedine dans le Barça PSG.
Bah moi, je pense que ça a tourné et qu'actuellement. Paris,
la phrase d'Unai Emery, un jour ça ira dans le sens du PSG.
Mais comment ça se fait?
Il avait dit ça, on avait l'impression que c'était un devin qui parlait quand il a dit ça. Il était habité par cette phrase.
Mais c'est dû à quoi?
Mais t'as un mouvement.
Au jeu du PSG, les dégâts du PSG, ou il n'y a pas de force occulte.
Le PSG, je veux
aimer. Je veux savoir, Daniel, il n'y a pas de force occulte. C'est ça que je veux essayer de savoir.
Le club dominant.
Ça s'appelle de la psychologie. À un moment, le PSG était détesté. Le président était détesté. Il a tout fait pour inverser ça. Il a tout fait. Il est proche de tout le monde
là-dedans.
Mais il est neutre. Mais c'est un truc qui est irrationnel. C'est une sorte de soumission psychologique. C'est inconscient. Aujourd'hui, c'est un club sympa.
Ça
tourne.
Et dominant.
C'est bien. Et dominant.
Et très dominant même.
Raphaël,
il a morflé pendant des années à cause du contraire.
Aujourd'hui, le PSG champion d'Europe a changé de statut. Et comme au Real Madrid, à l'époque, ils avaient toujours ce statut de club qui remporte très souvent la Ligue des Champions et va quasiment tout le temps dans le dernier carré. Aujourd'hui, le PSG a enchaîné les 3 demi-finales Ligue des Champions et est considéré comme un club avec une certaine stature. Aujourd'hui, là, je dirais pas que c'est de la chance, mais on a une position où il y a un espèce de respect qui fait que la roue tourne en notre faveur et c'est un peu la force des grands clubs.
Moi par contre pour ça je suis pas forcément d'accord. Je trouve que ils ont pris cette réussite, cette chance, je sais pas, que le Real avait une certaine période, mais pour moi c'est pas normal. Parce que si
pas c'était normal.
Non, mais bien évidemment. Mais
c'est.
Non, je sais. Mais j'ai pas parlé de vous. Je parle des gens en général. Mais je dis juste que pour moi, c'est pas normal. S'il y a pénalty, il y a pénalty. Et au final, moi, j'accepte pas ça quand je regarde un match comme ça.
Mais je suis d'accord.
Mais quand on regardait le Real, ça nous saoulait. Quand Ramos, il prend au moins ça là, il le met par terre, il unique le bras. Oui,
mais
il se passe rien.
Comme c'est Paris, ça saoule personne.
Samuel Umtiti, comment avez-vous fait la remontada?
Bah en fait, on a joué, on était meilleur que Paris.
Bah tu plaisantes. Oh,
ok d'accord.
Bah, moi, mais c'est pas ça, au point de mettre 5 buts d'écart.
Au point de?
Pas au point de mettre 5 buts d'écart.
Mais ça, l'arbitre ce soir-là, il avait les manteaux de fourrure dans la chambre d'hôtel. Hein.
Mais
il avait les Rolex et les
monnaies. À ce moment-là.
Mais tu
plaisantes. Mais non, mais Paris jouait pas. Leur mentalité, ils avaient peur. C'est ces choses-là.
Daniel fait une blague, je précise.
On va avoir des plaintes. Et sur Di Maria, à part lui casser la jambe, vous pouvez faire quoi de plus en fait? Comme il s'appelle
Mascherano.
À part lui péter la jambe, qu'est-ce qu'il devait faire de plus?
À ce moment-là, peut-être que le penalty était.
Ah oui, peut-être.
Merci Samuel. Bon,
et l'arbitre, tu sais qu'on l'a plus jamais revu après.
Tu m'étonnes.
Le pauvre Yetkin. Jean-Louis, pardon, non, tu as donné ton avis sur l'arbitrage là.
Moi, je pense que vous allez un peu loin. Je nie pas que ça existe, la domination du champion, les coups de sifflet en faveur, etc. Je ne nie pas ça, mais je suis pas sûr que ce soit l'histoire de ce soir. Je pense que Monsieur Pinheiro, c'est pas le meilleur arbitre européen. Kevin, dès qu'on a annoncé son nom, qui suit Kevin Diaz, le foot portugais, il a dit qu'il n'était pas au niveau. Et je pense que entre un arbitre pas au niveau et un règlement qui est pas sur les mains, parce que la main de Neves, moi vous m'avez expliqué les règlements, il n'y a pas de problème.
On aurait dit, dites-moi
quoi. Non, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la main de Neves. Il y a Nuno Mendes qui doit prendre rouge pour un deuxième jaune. On comprend toujours pas pourquoi.
De lui mettre rouge aussi.
Il y a plein d'autres coups de sifflet pendant le match où honnêtement on n'a pas compris. À un moment il y a une grosse faute sur Kane.
Mais là les Allemands ils vont parler que de ça de toute façon ce soir. Enfin on aura Paulo Breiter.
Ça serait réducteur à mon sens, mais bon.
Bah oui, mais tu vas voir. C'est logique.
Comme ils font en Espagne contre le Real ou le Barça perd, ou comme
on ne saura jamais l'issue de ce match, même s'il y avait eu un expulsé ou un pénalty.
Bon, passons à l'évaluation. Pacho a été élu homme du match. Raphaël, tu dis quoi, toi? C'est Pacho?
Pacho, oui.
Stop, excuse-moi, il y a Marquinhos en zone d'interview, en direct.
La bonne tête, la bonne mentalité, comme on a fait l'année dernière. On a des objectifs à aller chercher. Et voilà, ça va être très important de gagner une deuxième fois la Ligue des Champions. C'est ça notre objectif.
Marquinhos, je voudrais que tu parles, comparer ce sentiment de chegar à la finale pour la seconde fois.
Ça va être un peu de répondre en portugais. Donc, tu lui reprends. Raphaël, donc c'est l'homme du match pour toi?
Bah, Pacho, moi, je suis d'accord parce que même si son match n'est pas mauvais, il aurait pu faire mieux à l'image du score final, mais sur le match retour, c'est un peu la force de ce Paris Saint-Germain. C'est pour ça que je suis d'accord avec Daniel sur le fait que cette année le PSG est encore plus fort que l'année dernière. C'est que les joueurs, lorsqu'ils sont un peu moins dedans au match aller, répondent au retour, à l'image de Ousmane Dembélé contre Liverpool au quart de finale. Il n'a pas fait son meilleur match à l'aller, au retour il a répondu présent, il a été en field avec son but. Pour moi, Pacho a répondu plus que présent au match retour et a montré qu'à son poste, à l'heure actuelle, c'est le meilleur défenseur central du monde.
Bah, dans tes deux points, tu avais la défense.
La défense, pour moi, je les ai trouvés très solides. Même si sur le match aller, moi, je les ai trouvés solides aussi.
On avait critiqué Marquinhos à l'aller,
Moi, je les ai trouvés solides.
Marquinhos, ok, peut-être, mais moi, je suis d'accord avec ça.
Mais c'était un match fou, il y avait énormément de qualité et que ça arrive sur une action qu'un attaquant arrive à te passer. Normal. Mais je trouve qu'ils ont été solides sur le match aller, sur le match retour et que ça fait du bien à tout le monde de voir un match aller comme ça, de cette qualité. Et sur le match retour, j'ai vu des vrais bonhommes défensivement, ce qu'ils ont proposé. Pour moi, c'est très fort. Et pour gagner la Ligue des Champions, tu as besoin de ça.
Et n'oublions pas Warren Zaïre-Emery.
C'est ce que j'allais dire.
Qui est extraordinaire ce soir.
C'est ce que j'allais dire.
Et je voudrais mettre en avant sa saison parce que lui, il a joué une tonne de matchs. Il a quasiment rien raté.
Après avoir connu un creux énorme l'année dernière.
L'année dernière, le pauvre, il arrivait parfois qu'on ait un peu de peine pour lui parce que c'était la nouvelle star, la nouvelle figure du PSG, le joueur emblématique et qu'il était passé derrière dans la hiérarchie. Que cette année, non seulement pendant que les autres se reposaient parce qu'ils avaient trop joué, lui, on l'a tout le temps mis en avant, quitte à l'user, le suruser. Il a accepté sa situation, il a tout encaissé. C'est un fabuleux soldat.
Si j'étais Didier Deschamps, je pense que je réfléchirais le mettre arrière droit.
Mais c'est même pas que je suis d'accord avec toi. Mais mille fois.
Parce qu'il s'intègre facilement au milieu. Il amène un surplus.
Mais Warren, il est titulaire chez les Bleus à droite. Je suis content que tu le dises parce que j'allais enchaîner en disant ça. Il doit être titulaire arrière droit, Warren.
Et Koundé, on l'a terminé. Alors.
Koundé.
Ah, vous l'avez oublié, lui. Hein.
Koundé, fin juin, je te tiens, il y a les collections automne-hiver.
Non, il y a la Fashion Week qui arrive.
Il y a les collections automne-hiver.
Il a le droit d'avoir une passion qui est la mode. Maintenant, on va le laisser à côté. On parle de football sur le terrain. Qu'est-ce qu'il fait? Il est performant? Oui. Point barre. Mais moi, c'est comme si toi, là, t'es à l'antenne, et maintenant tu dis, ah bah j'aime bien les voitures. Ah bah en fait, il va voir la Formule 1, mais c'est pas bien. Oh non. Bah non, t'as le droit. C'est ta passion aussi. Non, je suis pas d'accord avec ça.
Moi, je dis que s'il veut choisir les fringues des joueurs de l'équipe, c'est bien.
Mais t'es joueur de foot,
s'il veut choisir les costards,
il n'a pas le droit d'avoir une autre passion.
Si, bien sûr qu'il a le droit.
Non, parce qu'avant, c'était le bandeau.
Le bandeau.
Ça, c'est un truc entre vous, les gars.
Sam, d'abord, pour les défilés, c'est une blague récurrente.
Je sais, je sais.
Le droit d'être bon et de faire ce qu'il veut à côté.
Sûr,
c'est une blague.
Évidemment.
Mais il se trouve que, là, vraiment, footballistiquement et sérieusement, je pense qu'aujourd'hui, la question se pose de savoir si Warren ne ferait pas mieux que lui au poste d'arrière droit.
Mais moi je suis d'accord avec ce que
maintenant,
tu dis.
Maintenant, il va au défilé quand il veut.
Bien sûr, mais je pense qu'il y a une concurrence entre les deux.
Ah, il y a une concurrence.
Et que je pense que les deux, voilà. Ça peut.
Et c'est pas faux de dire que Koundé est vraiment en retrait cette année.
On a un profil plus joueur avec Zaïre Emery.
Ah, je suis d'accord avec toi.
Je
suis d'accord avec toi, mais c'est un joueur pour.
Et il a qu'à nous inviter au défilé, je vais avec toi.
Mais pour parler foot, je pense que Jules, il fait quand même des saisons où il est performant et que c'est normal qu'il ait sa place en équipe de France. Mais ensuite, là, quand tu regardes les performances de ce jeune-là à Paris, ce qu'il fait à droite, alors que c'est pas son poste.
Et c'est, tu précises que c'est un jeune. Il a 19 ans, il a plus de 100 matchs avec le Paris Saint-Germain. Il doit avoir plus de 30 matchs, peut-être 20-30 matchs en Ligue des Champions. Il a même pas 20 ans. Et moi, ce que j'ai vraiment apprécié chez lui, c'est sa remise en question à accepter de repasser par les équipes
son caractère.
C'est quelqu'un de très intelligent et pour repartir de plus belle. Et là, il est en train de faire quelque chose exceptionnel, aussi bien sur sa polyvalence que sur sa régularité
cette
saison.
Comme disait Daniel, c'est un soldat. Et ça, dans une équipe, c'est tellement important. Vraiment,
Jean-Louis,
vraiment.
Vu du stade, Zaïre Emery.
Ah, impressionnant. Impressionnant. Moi, c'est toujours ces duels à l'épaule. J'en parle à chaque match. Je trouve ça impressionnant. Là, il a été un peu bougé par Stanisic parfois. Et un
attention,
peu.
Moi, je l'ai vu se faire sur deux, trois actions, se faire manger ce soir. Ouais. Mais c'est pas grave, après. Il se relève. Ouais. Il a même fini le cul par terre à un moment. Il s'est fait un truc un peu humiliant pour un défenseur. Le mec, il s'en fout.
En fait,
il va à la bagarre tout le temps.
L'attaquant contre lui doit faire un truc vraiment exceptionnel. Il fallait que Luis Diaz soit archi parfait, etc., pour créer quelque chose. Et rien que ça, il est rentré dans sa tête comme il est rentré dans la tête de beaucoup de vis-à-vis sur toute la campagne. Non, et je suis arrière droit en bleu bien sûr, à 100%.
Moi, ce qui me plaît beaucoup en dehors de ses qualités mentales, morales et son bagage sur le terrain, c'est sa faculté justement à s'imprégner de la position dans laquelle il doit évoluer. Et ça amène justement une dimension à ce joueur qui pour moi le rend très intéressant dans ce que recherche Luis Enrique. Il peut moduler son effectif en permanence, même s'il a un ou voire deux joueurs qui sont absents. Il peut très bien compter sur des joueurs qui sont capables de changer tout de suite de poste. Et à chaque fois qu'ils évoluent dans ces postes, dans ces zones respectives, ils savent exactement dans quelle position il faut récupérer le ballon, dans quelle position il faut redonner le ballon, parce qu'ils ont l'habitude. Justement, il n'y a pas d'appréhension particulière, c'est spontané.
Une information pour les supporters du PSG, le club communiquera demain sur les modalités pour les places pour la finale. Voilà, parce que ça intéresse forcément les gens qui nous écoutent.
Ça avait fait polémique là.
Oui, l'an dernier, effectivement.
Ça n'avait pas été super.
Sur les différentes vagues.
Le stade, il fait combien
Surtout qu'il y avait eu tellement de cadeaux.
Il fait que 48 000.
Il fait moins de 50 000.
Sérieux? Il y avait eu tellement de cadeaux en plus.
Finale de Champions League.
Pour les supporters, pour Paris,
la dernière,
il va y avoir 10-15, pas plus.
Des abonnés historiques l'année dernière. Ah non, tu parles du parc ou du stade
Budapest.
Je crois qu'il fait un peu plus de 60 000.
Tu m'as fait peur.
Non, il est un peu plus grand. Mais par rapport aux vagues, c'est vrai qu'il y avait. Je connais beaucoup d'abonnés historiques qui ont été lésés parce que.
Parce qu'il y avait eu énormément de cadeaux de faits à droite à gauche par le club.
Et ils privilégiaient plutôt les abonnés en tribune présidentielle, Borelli, et pas en virage.
Il serait logique que ceux qui n'ont pas pu avoir de place l'an dernier parmi les abonnés soient prioritaires cette année. Je sais pas, la logique dans le monde dans lequel on vit, ça va pas dans les
67 000 places.
67 000
le stade Puskás. Comme Munich en fait, plus ou moins.
Ça veut dire à peu près 20 000 pour pas pour chaque équipe.
Munich là où, ce soir, c'est
25 000. Le reste. Okay. Non, mais c'est pas comme ça l'UEFA, je t'explique. Quand t'as 60 000, t'as 30 000 au moins pour l'UEFA et grand public.
Avec
et puis
les cadeaux,
le
les partenaires, les influenceurs.
C'est scandaleux.
Partenaires, cadeaux et tout, c'est ouf.
D'accord, mais c'est les supporters, on en fait quoi en fait?
Ils sont pas prioritaires dans l'esprit.
Donc le football.
18.
Donc ceux qui payent à tous les niveaux dans le football, donc ils sont pas.
Restons sur l'évaluation. J'aimerais qu'on parle de Fabian Ruiz, parce que
ça fera partie de mes prochains points, ça.
Eh bien, tu sais quoi, on va faire une petite pause et après t'as la parole, comme ça je te laisse réfléchir à
ton. Non, je préfère que ça soit Daniel qui prenne la parole tout de suite.
Ah, tu préfères.
Il a pas suffisamment
ça, c'est typiquement
ce
Manu, tu laisses la parole aux autres, il va arriver par derrière.
Toujours par derrière.
Allez, à tout de suite. Dans l'after, on est là. Jusqu'à minuit et demi, ensemble, dans l'after, entre poètes, bien sûr.
RMC, jusqu'à minuit 30, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h46, messieurs, dames, nous sommes là jusqu'à minuit et demi dans cette soirée de football historique, car le PSG s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions pour la troisième fois de son histoire, en éliminant le Bayern malgré un score d'égalité à partout. Ce soir, Daniel Riolo-Hélène, Manuel Petit, Samuel Umtiti, Raphaël est avec nous également ici au topo, supporter du PSG. Donc Fabian Ruiz, Daniel, c'était le doute de l'avant-match.
Moi, je n'avais pas de doute à partir du moment où il était aligné, parce que s'il était aligné, ça voulait dire que les tests physiques avaient été concluants. Donc, s'il récupère sa place, j'avais pas de doute qu'il allait également être performant. Il l'a été. Il a été, comme à son habitude au milieu de terrain, précieux techniquement, précieux dans la récupération. Dès la troisième minute, c'est lui qui est dans l'avant-dernière passe et dans ce décalage très juste, parfaitement dosé, la passe pour Kvara. Oui, effectivement, ça c'est l'action où il se met tout de suite en évidence, mais par la suite, il a été très précieux, au même titre que les deux autres au milieu. On a retrouvé le milieu à trois. Alors, on n'a pas retrouvé le milieu conquérant dans la possession, dominateur dans le jeu, parce qu'ils ont beaucoup subi, mais il n'y a rien à dire de son match. Et les doutes sur son état physique, mental, technique, il n'y en a pas, en fait. On a retrouvé Fabian Ruiz, qui maintenant va enchaîner encore plus les préparations et il sera au top pour la finale et titulaire. Bien sûr. On a beaucoup disserté sur la compo. On a eu la compo classique. Je vais pas refaire le truc sur Luis Enrique, qui ne fait plus de surprise maintenant et que c'est formidable justement de ne plus en faire et que j'adore ce qu'il fait maintenant par rapport à avant. Oui, il y a plus de surprise. C'était sûr que Fabian Ruiz allait jouer et j'étais sûr que Doué allait jouer et que tous ceux qui disent Barcola, il méritait machin. Oui, mais Barcola, j'ai rien contre lui. Sauf qu'à partir du moment que Vara est là, Vara il est au-dessus, Dembélé c'est au-dessus et Doué c'est au-dessus. Et Doué il joue tout le temps. Voilà. Parce que maintenant il y a une hiérarchie qui est claire dans cette équipe et elle est comme ça, cette hiérarchie, depuis février de l'année dernière. Et c'est très bien comme ça, et ça me va très bien comme ça. Et ça ne m'allait pas avant. Et je ne vais pas répéter pour la 151e fois.
On ne le répète pas.
Ta merde, quoi. On dit les choses, les gens ne veulent pas comprendre. Mais sans arrêt, ils me remettent dans la gueule des trucs débiles.
Manu.
Ah non, mais moi, j'ai trouvé qu'il a fait un match très propre. Il a été dans la gestion de son énergie. Il a pas fait des courses folles. Il a été surtout là pour être l'élément qui équilibrait aussi le milieu de terrain.
Voilà.
Et très propre également dans ses prises de balle, parce que souvent il jouait à une touche de balle. Il a pas pris de risque. C'est un match de reprise, mais un bon match de reprise. Il a été bien aidé aussi par ses partenaires, qui sur les phases défensives à chaque fois, il y avait une proximité entre partenaires. Et on le sait, quand t'as autour de toi un bloc uni. Qui est prêt au combat, c'est plus facile de défendre dans les espaces et dans ta zone.
Bon, autres joueurs, il y en a un qu'on n'a pas cité
déjà au milieu de terrain, moi Ruiz, le doute c'était sur le rythme surtout. Ça a été, mais c'est pas lui que je cite en premier quand même. Joao Neves, je l'ai trouvé exceptionnel, notamment sur la première mi-temps où c'est vraiment le morpion qui va mordre les chevilles.
C'est une belle image, Jean-Louis, c'est... bravo pour le morpion.
Non mais truc qui gratte, tu vois.
Donc ça, ce que c'est qu'un morpion.
Donc Joao Neves, voilà, énorme. Et Kvaratskhelia, excusez-moi, c'est homme du match. Kvaratskhelia, ce qu'il fait sur le premier but et comment il emmène tout le monde. Parce que Dembélé a été un peu plus discret. Je pense d'ailleurs qu'il était diminué, c'est pour ça qu'il est sorti. Enfin, on attend d'avoir les infos. Mais pour moi, l'homme du match, c'est Kvaratskhelia. Encore une fois.
Safonov, j'ai bien aimé, sincèrement.
Okay. Moi, parler de Kvara parce que c'est propre, oui.
Safonov, justement, c'est pas propre.
Non, il a pas eu grand chose à faire. Bien, et à un certain moment, il y avait des choses qui. Moi, je trouve que c'est un gardien qui est là, il fait le job, le strict minimum, mais c'est pas forcément rassurant.
Il donne le max.
Voilà, dans certaines situations.
C'est efficace.
Oui, ouais, c'est efficace.
Il fait pas d'erreur.
Il a un style qui est pas rassurant, mais c'est efficace.
C'est efficace, exactement.
Il sort plus que Donnarumma. Hein. On n'est pas serein parce qu'il va toujours au point, mais il va un peu plus soulager sa défense. Hein.
Bon, il fait des arrêts parfois. C'est... Ouais. Franchement, il est chelou. Mais bon, écoute.
Ouais, mais après, final, écoute.
Mais surtout que le but qu'il prend, ouais. Il peut rien faire. La frappe.
On a tous des copains chelous. Alors, c'est le mec chelou, c'est sympa. Bon, voilà. T'es là, t'es avec lui, tu dis, oh, t'es chelou comme mec. Mais bon, écoute. On se marre bien quand même avec toi.
On n'a pas parlé de Doué.
Bien, moi, de toute façon, je les trouve tous bons, les Parisiens, ce soir. J'en ai pas un que je mets en dessous, quoi. Mmh. Quand tu fais une demi-finale retour de Ligue des Champions, tu vas à Munich, tu ramènes la qualification. Ben, pour moi, ils ont tous été bons.
Ouais, ils ont tous été bons, même dans leur course.
Marquinhos, avec ses limites et tout, ouais. Le mec, il se bat, il est là, il est dans le ton du collectif, de la bagarre générale, de la détermination, de la solidarité. Il y en a pas un que je mets en dessous. Même Safonov, qui, on va dire, techniquement, si tu le prends poste pour poste, c'est celui qui dégage le moins d'assurance, le moins de style. Comme on disait, c'est le mec un peu bizarre, là, comme ça. Ben, il donne le max. Est-ce que tu vas reprocher un mec qui donne le max?
Ouais. Ouais, voilà. Bon, ouvrons le dossier Luis Enrique. Tu l'as mis, je crois, aussi d'entrée sur la table, Sam.
Ouais, j'en ai parlé,
pour toi, c'est cette gestion de la saison, la qualification de ce soir, l'artisan numéro 1, pour toi, c'est Luis Enrique?
Ah oui, bah, c'est lui et les joueurs, parce que les joueurs ont adhéré, ont accepté aussi certaines choses. Mais je pense que cette saison, on savait qu'ils venaient de remporter le championnat à la Ligue des Champions et que ça allait, ils allaient être beaucoup plus attendus. Et en plus, ils savaient qu'ils n'allaient pas avoir de préparation physique. Et je pense que ça, ils avaient préparé ça. Ils savaient que ça allait être compliqué. Ils allaient être dans le dur à un certain moment. Ils le savaient. Et on en avait même discuté. Et on me disait, non, mais est-ce que toi, tu trouves que c'est normal? Mais moi, je trouvais ça totalement normal.
Ah oui.
Prévu.
Bah, bien sûr.
Prévu.
Bien
sûr. Et au final, tu te rends compte que ils ont eu leur trou un peu aussi.
Ils ont eu des défaites,
c'est normal.
Dans la première partie de saison, ils perdent le match contre le Bayern où tout le monde s'est mis à paniquer. Mais bon, on voyait bien que physiquement, ils étaient pas prêts. Ils vont perdre à l'OM, ils avaient pas perdu au Vélodrome depuis des années et tout. Bon, bah, finalement, ça a atteint personne. Si ce n'est le côté un peu symbolique, ça leur a fait plaisir à eux. Voilà. Mais en fait, les défaites, il y a eu celle contre le Sporting. Il y en a eu des défaites.
Il y a eu Rennes, il y a eu Monaco. Lyon.
Ça, c'est plus en 2026.
Ouais, bien sûr. Mais après, je trouve qu'ils arrivent en pleine forme. Et exactement, pour arriver en pleine forme à cette période qui est la plus importante. Et que quand tu regardes
la chance de jouer en Ligue 1.
Mais tu peux être sûr qu'ils vont tout le temps faire ça.
Non, mais
ils vont tout le temps faire ça maintenant.
Tout dépend.
Je trouve que la montée en puissance et la préparation, et je pense que Luis Enrique, il a vraiment calculé pour que mi-février, fin février.
Les préparateurs physiques, Luis Enrique, je pense qu'il a un staff qui est très, très, très bon.
Mais c'est pas pour rien qu'on arrive à avril-mai et qu'on a quasiment pas d'absent, si ce n'est Barcola sur quelques
semaines. Je suis moyennement d'accord avec vous.
Vous savez le seul truc qui n'était pas prévu? Vous savez le seul truc qui n'était pas prévu?
Ils ont 10 jokers justement dans la
saison.
Mais
bien sûr,
c'est un championnat
physique comme le Bayern.
Oui, c'est pour ça.
C'est pour ça.
Non, mais ça te permet de garder toute ton intensité.
C'est la gestion sur l'année des préparateurs physiques,
de forme et tout. C'est très important.
Non, je trouve que c'est la facilité qu'ils ont en Ligue 1 qui leur permet justement de faire abstraction sur
certains matchs. À une époque, c'était un handicap. Ils ont su le tourner en avantage. Mais tu sais, le seul truc pas prévu,
ils ont pas besoin de mettre le turban à chaque match.
Aurait pu mal tourner. C'est le match de play-off. Le match de play-off, et ça, je me souviens très bien de la conf de Luis Enrique, ça l'a emmerdé. Parce qu'il avait dit, un peu, ah, ben, vous voulez des matchs, vous voulez deux matchs de plus, on va jouer
fin janvier,
tu
veux dire.
Bah, quand ils ont su qu'ils devaient jouer un play-off. Ouais. Et ce play-off contre Monaco, alors qu'ils sont pas, justement, parce qu'ils sont dans leur fameuse prépa du mois de février, il y a eu un monde dans cette double confrontation, ou contre toute attente, il se faisait sortir connement avec but de fesse à dernière minute, la prolongue qui tourne mal, machin, tout ça. C'est le seul truc parce que là, ils sont pas prêts à ce moment-là et ça aurait pu mal tourner. À partir du moment où ils ont passé ça, physiquement, ils étaient au top, c'était fini.
Mais Manu, là où je voulais revenir, c'est que les premières années qataries, quand on disait le PSG passait pas l'écart, très souvent, on pointait du doigt que la Ligue 1 empêcher le PSG d'être dans une dynamique à jouer des équipes régulièrement avec une haute intensité comme les clubs de première ligue. Et là aujourd'hui on dit que c'est l'inverse et qu'au final c'est grâce au fait de jouer contre des clubs de Ligue 1 que le PSG peut se reposer. Donc moi je suis quand même assez d'accord que jouer des équipes compétitives régulièrement, peut-être pas tous les week-ends, mais régulièrement, permet quand même aux joueurs de rester sur une dynamique.
Attention, quand on disait ça,
c'était lié au comportement de l'équipe.
Il y avait plusieurs éléments. Il y avait ça. Il y avait le fait que la Ligue des Champions, il y avait des matchs de moins dans la formule.
Oui, il y a
l'évolution du foot depuis 2-3 ans qui est extrêmement tournée vers l'athlétisation et l'intensité beaucoup plus qu'avant. Et le PSG a beaucoup joué là-dessus, même par rapport au début de Luis Enrique, où on tournait plus en rond, où il y avait beaucoup plus de possession stérile, de passe latérale. Il a beaucoup changé ça. Il y a eu beaucoup plus d'intensité, de verticalité mise dans le jeu. Ce qui fait que maintenant, surtout dans cette nouvelle formule où ils vont finalement être à 17 matchs, qui est un demi-championnat, il faut qu'à côté tu aies du temps de repos. Arteta, il l'a dit. Il l'a dit. Nous, avec la première ligue, c'est très compliqué pour nous.
Raphaël, sincèrement, tu regardes l'équipe encore incarnée par Neymar, Messi, Mbappé. Tout le monde se plaignait justement qu'il y avait trois qui marchaient à la perte du ballon.
Les huit autres couraient plus, évidemment.
Donc, c'est pour ça qu'on disait que la Ligue 1 pouvait être un problème pour eux, parce que déjà, pour les bouger sur le terrain, il fallait vraiment amener de l'adversité. Et souvent, ils étaient surpris justement du choc.
Il y avait des joueurs dans cette équipe qui étaient incapables de mettre de l'intensité.
C'est ce que je te dis.
Peu importe qu'il y ait Ligue 1 ou pas. Neymar, bon, évidemment, l'absurdité des trois devant, c'était absurde. Mais le milieu de terrain, moi, je me battais pour dire le milieu de terrain n'a pas d'intensité, parce que Verratti tripotait, mais il était incapable de mettre de l'intensité. Quand tu vois aujourd'hui ce que font Neves, Vitinha, Ruiz, mais on est dans un autre monde.
Oui, mais parce que l'équipe qui avait été construite à cette période-là,
elle n'avait pas de sens.
Mais il y avait il n'y avait pas de sens. C'était de ramener une star par-ci par-là, alors que là c'est totalement différent.
Pas au début, alors les gars, on va écouter Marquinhos, parce que justement il parle de cette année un peu spéciale, galère. On va voir ce qu'il dit.
Toutes les années que j'ai passées, je sais très bien comment c'est dur. Peut-être les plus jeunes, ils réalisent pas trop, parce qu'ils ont vécu ce moment, ces trois années qu'on a eu. Des belles années, demi-finale, finale, champion. Et moi, avec tout le parcours que j'ai eu, je réalise, parce que, comme j'ai dit, c'était la cinquième demi-finale pour moi, en 13 ans. La troisième finale. Et je sais comment c'est difficile le parcours. Si nous, on arrivé à passer tous ces parcours et arriver en finale, on peut franchement faire de belles choses et gagner cette finale.
Luis Enrique en conférence de presse, il vient d'arriver. On va écouter le début de son intervention.
Et Bayern Munich, ils sont faits de tout, ils sont attaqués tous les temps. Ça a été très difficile. On n'est pas habitué à défendre combien de temps, mais on a montré, comme d'habitude, quel type d'équipe nous sommes, quel type de joueurs nous avons. Et c'est incroyable. On est dans la deuxième finale de Champions League consécutive. Ça représente le niveau qu'il y a cette équipe, le niveau qu'ont les joueurs, le niveau qu'ont les supporters, c'est le club. Et on est très contents.
Et Luis Enrique travaille
dans un groupe. Vous avez dirigé plusieurs équipes, plusieurs clubs. Est-ce que c'est l'équipe la plus forte que vous avez entraînée dans votre carrière?
C'est difficile à dire ça devant ma carrière, mais bien sûr que pendant ces trois dernières années, c'est l'équipe plus forte, l'équipe plus similaire à nous, à mon avis. Et ça a été très difficile, parce qu'ils sont beaucoup de joueurs de qualité, mais en même temps, ils sont une manière de jouer très claire, très difficile à gérer, très difficile à défendre. Mais ce qu'on a montré aujourd'hui représente quel type d'équipe nous sommes. Et je vous rappelle qu'on n'a pas encore répété l'équipe qui a gagné la Champions League, la finale de la Champions League, cette équipe titulaire. On n'a pas pu répéter cette équipe, parce que cette année a été très particulière avec les blessures. Et
alors là, en fait, il s'est trompé de réponse. Il aurait dû dire effectivement, c'était plus fort quand j'ai entraîné l'équipe de Samuel Umtiti et quand j'ai joué avec Manu Petit.
Alors si on parle de
il n'entraînait pas l'équipe en 2001.
En 2015, l'équipe, moi, je ne changerai jamais de version là-dessus. Messi lui accorde le droit d'entraîner l'équipe. L'équipe, elle est extraordinaire, extraordinaire à tous les postes. C'est une équipe fabuleuse. 2016, elle est fantastique aussi, et 2017 aussi, c'est une équipe incroyable au Barça. Et ça ne l'empêche pas de ne pas avoir la même... Enfin, en tout cas, il n'a pas la main sur l'équipe comme il l'a aujourd'hui. Aujourd'hui, il est totalement le patron, parce que la direction lui a donné... Il a les pleins pouvoirs, il a fait ce qu'il a voulu de ce groupe. Avec Campos, ils ont construit une équipe absolument formidable. Il est totalement le patron. Il n'était pas complètement au Barça. Au Barça, à l'époque, il y avait des joueurs. Et quand tu as Messi dans ton équipe, c'est plus important que toi. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Parce qu'en 2016, quand ils perdent contre l'Atlético, c'est une équipe absolument incroyable. 2017, après avoir éliminé le PSG, ils se prennent une grande tarte dans la tronche quand même face à la Juve. Et Luis Enrique est l'entraîneur. Hein. Ce qu'il a cette année, ce qu'il fait cette année, c'est bien plus fort. Mais ça ne veut pas dire que le PSG et que l'équipe est plus forte intrinsèquement. Les joueurs étaient fantastiques qu'il avait au Barça. Mais là, il a une main totale sur ce qu'il veut, sur l'équipe, et il met en place ce qu'il veut. Avec peut-être, je sais pas si vous l'aviez à l'époque, mais ce qu'il a maintenant, toute la cellule psychologique.
Et il avait
les préparateurs déjà à l'époque.
Ouais, il avait déjà.
Parce que ça,
après,
c'est
je trouve qu'à Barcelone, il était peut-être sur un... comment je vais dire ça, fin de cycle. Alors que là, à Paris, c'est totalement différent. Je pense que il a créé son équipe, il l'a fait comme il avait envie, et c'est les débuts, et que c'est totalement différent, et on peut pas comparer les deux équipes, et sa période à Barcelone, je pense, elle était aussi merveilleuse, il a réussi à gagner des titres, mais là, je pense qu'il a évolué
Quand tu perds en 2016-2017,
il a quand même fait des belles choses, mais là, à Paris, ce qu'il est en train de construire là, avec les joueurs qu'il a, c'est totalement différent de ce qu'il avait à Barcelone.
Merci Jean-Louis.
Il est parti déjà.
Ah bah non, j'étais là, j'essayais de répondre depuis tout à l'heure, mais pas de problème.
Il faut partir maintenant, monsieur. Faut laisser la micro.
Tu veux dire un dernier mot, un truc que t'as pas dit et que tu veux absolument dire.
Non, c'est bon, tu pars frustré.
Pas de soucis,
je suis pas frustré.
Bonne soirée, Jean-Louis. Raphaël, merci aussi.
Merci beaucoup.
À très bientôt. Dans un instant, Manu, restez avec nous pour nous parler de la finale, quand même, de dire ce que t'en penses. On veut ton avis sur. Parce que c'est un peu Arsenal, c'est chez toi.
Ah oui, parce que son cœur va battre pour les Gunners.
Et Paulo Breitner nous rejoint également dans quelques minutes, bien sûr. Et puis Nasser Al-Khelaïfi a eu une petite phrase que je vais vous livrer dans quelques instants qui est intéressante. A tout de suite.
RMC jusqu'à minuit 30, l'After Foot. Gilbert Bribois.
On est là, jusqu'à minuit et demi dans l'after, il est minuit 3, Samuel Umtiti, Daniel Riolo, Manu Petit, Timéo est avec nous, supporter de PSG ici à Dopo. Salut Timéo.
Bonsoir tout le monde.
Et merci d'être avec nous. On va accueillir Paulo Breitner dans quelques instants, mais Manu.
Oui.
PSG Arsenal.
PSG est favori, grandissime favori parce qu'ils ont...
Toi qui es un néo-parisien et un ancien gunner. Pardon ? On a bien vu que tu es néo-parisien, tu es à bloc maintenant, depuis quelques temps, maintenant depuis 2-3 ans.
Ah oui, non, mais bon, j'ai quand même des gueules dans la peau, même si c'est une équipe française qui joue contre une équipe anglaise.
Quand même.
Mon cœur, j'ai quand même vécu 3 années exceptionnelles à Arsenal et à chaque fois j'y retourne.
J'ai 25 ans.
J'étais encore lundi à Londres et je peux te dire que c'était comme si c'était hier, tu vois. Donc et puis j'ai encore beaucoup d'amis dans le club, donc quelque part je me sens affilié avec ce club-là. Donc, mais pour répondre à ta question, pour moi le Paris Saint-Germain semble toujours injouable. Je vois pas, même si l'art de bien défendre est aussi quelque chose de très recherché dans le football, de pas prendre des buts, et que à ce niveau-là, Arsenal a été la seule équipe à aller quasiment au bout de toutes les compétitions cette saison, hormis la demi-finale de la FA Cup. Mais sinon ils sont au bout. Là. Il y a peut-être un truc déclencheur qui peut exister, c'est que la finale arrive le 30 mai et qu'avant on saura qui sera champion d'Angleterre. Cette course depuis plus de 20 ans.
Peut-être le week-end qui précède pour Arsenal.
Exactement, ça peut amener un boost incroyable dans la tête des joueurs d'Arsenal. Mais en termes de jeu collectif, pour moi le PSG est supérieur en termes d'individualité aussi qui peuvent faire la différence, mais sur une finale tout est jouable, et je pense que les Gunners, s'ils sont revigorés avec un titre de champion d'Angleterre, ils peuvent se dire il n'y a pas de coïncidence, puisque ça fait plus de 20 ans ici que la dernière fois que le club a joué une finale de champion.
Ah oui, ils peuvent être portés par
exactement, il peut y avoir un vent, tu
bien
vois
bien sûr, bien sûr, ça oui.
une espèce de libération dans les têtes des Gunners en disant ça y est, on est champion d'Angleterre maintenant. La finale de Champions League, c'est la cerise sur le gâteau et ils vont se libérer. Ça peut être ça, tu vois.
Bon, Samuel, tu la vois comment?
Non, je pense que Paris, c'est l'équipe favorite de cette finale, mais je pense que sur une finale, à certains moments, il y a des choses qui peuvent se passer sur un match, mais je pense que le Paris Saint-Germain est vraiment injouable sur ce genre de rencontre, et encore plus face à une équipe comme Arsenal, qui a des individualités qui sont moins fortes, un collectif certes qui arrive à bien défendre. Je les ai vus encore là dernièrement, ils sont capables de bien défendre, mais c'est pas suffisant pour mettre en difficulté une équipe comme le Paris Saint-Germain.
Bon, quand tu les entends là, Timéo, toi le supporter du PSG, t'es rassuré?
Je suis d'accord avec eux, en vrai on est assez rassuré, surtout en défense. Après le match qu'on a vu, on peut que être rassuré. Néanmoins c'est une finale, on peut s'attendre à tout. Mais non, moi je suis assez serein quand même.
Ça change par rapport à l'an dernier quand même. Hein.
Ouais, bien sûr, c'est sûr.
L'année dernière.
L'an dernier, t'arrivais pas au Roland des Mécaniques quand même.
Ah si, pour la finale. Pour la finale, t'étais quand même bien. Pour la finale, ça va, t'étais.
Mais pas aussi serein que là, je pense.
Non, pas aussi serein que là. Mais bon, vu le parcours que tu venais de faire, t'étais quand même habité par l'idée que c'était la bonne année. Quoi.
Et aussi, l'Inter, l'année dernière, rappelez-vous, était parmi les meilleures défenses de Champions League. Alors qu'ils en prennent une
flopée
contre le Barça et en finale contre le PSG.
Nasser Al-Khelaïfi a dit il y a quelques minutes, on est parti avec cette équipe pour un cycle de 5 ans. Il a dit ça.
Mais des fois, je pense qu'il faut pas trop parler avant.
5 ans, c'est rare. Déjà, le Real,
il aurait mieux fait de se taire.
Bah oui.
Déjà, Marquinhos va partir.
Parle de ta saison, la saison du Paris Saint-Germain, qui va jusqu'en finale, deux années consécutives. C'est top, mais 5 ans, tu sais même pas ce qui va se passer. L'année prochaine, tu sais même pas les joueurs comment ils vont être, la performance
qu'ils
vont
ce genre de déclaration.
Et je déteste ça, moi. Moi, j'aime pas.
Je préfère, voilà. Ils vont pas parler comme ça. Cette équipe, quand il faudra la renouveler, c'est quand tu auras analysé quels sont les joueurs qui peuvent encore continuer, qui ont la même faim, la même envie, la même exigence par rapport au discours de l'entraîneur. C'est souvent comme ça que ces cycles-là s'arrêtent dans ces équipes qui dominent. C'est soit l'entraîneur, il a le droit de décider d'aller tenter une aventure ailleurs, soit certains joueurs ont également peut-être envie d'aller ailleurs. Je sais pas si Dembélé, on est sûr à 100% que Dembélé est là l'année prochaine. Si donc
ça veut dire
club,
que tu dois le remplacer.
Si un grand club qui arrive, tu penses que certains joueurs seraient tentés à partir? Du style Real Madrid, par exemple,
s'ils
viennent toquer à la porte de Vitinha.
Peut-être ils se disent, on tente encore une fois, mais
de Nuno Mendes, tous ces joueurs-là.
Quand t'as gagné déjà deux fois, t'as le droit d'aller voir ailleurs. Tous les joueurs ont parfois envie d'aller voir ailleurs.
C'est pour ça. Cinq ans, ça me semble un peu long.
Ouais, c'est pour ça que ça me semble très long et qu'aujourd'hui, déjà, si tu fais deux fois dans le foot actuel, c'est
est-ce qu'il compte les deux années, là, qui viennent de s'écouler dans ces 5 ans? C'est possible aussi.
Oui. Mais même 5 ans, c'est énorme.
Ouais, je pense que ça dépend aussi des plans de Luis Enrique. Franchement,
ça dépend tellement de choses.
Si il a ses plans, je vois pas pourquoi certains partiront.
Les joueurs d'Embélé, il a le droit à un moment de tenter autre chose dans sa vie.
Après, t'as quand même les Neves, Mendes, Doué, Barcola, t'as quand même une ossature d'équipe qui a moins de 25 ans.
Son nom revient souvent en Angleterre,
qui en gros peut, en restant là, se faire un palmarès de folie en l'espace de quelques années. Bon, t'as pas la garantie de gagner tout le temps, mais enfin, t'as quand même une base.
Nous, quand on avait régné sur le monde pendant 5 ans avec l'équipe de France, c'était un cycle maximum. On pouvait pas faire plus. Hein. Mm. Tu peux pas faire plus.
Vous avez de la chance en plus.
Ah bon,
j'adore les dire ça.
Non mais j'adore. Quand tu confirmes après un euro, c'est sûr que c'est de la chance.
On peut pas te chambrer. Il y a des sujets sur lesquels on peut pas te chambrer.
Pardon ?
Il y a des sujets sur lesquels on peut pas te chambrer.
Non, sur de la mauvaise foi, c'est pire que de la.
C'est bien ce que je dis.
Et surtout qu'on est bien lotis ici dans l'émission au topo, tu vois.
Mike et Katsovo.
Polo Breitner est-il parmi nous? Polo, bonsoir.
Ouais, Polo.
Salut, Polo.
Excusez-moi, je me réveille.
Qu'est-ce qu'il se dit alors?
Est-ce qu'on gueule après l'arbitrage en Allemagne?
Bah évidemment, en fait, moi ça me revient la phrase de Thomas Müller il y a 3 ans maintenant, qui dit que les clubs allemands ne sont pas respectés par les arbitres européens. Je vous rappelle le 8e de finale, Leverkusen-Arsenal hein, qui mène 1-0, Leverkusen se prend un pénalty, on ne sait pas pourquoi, après les arrêts de jeu, la fameuse rencontre Manchester City et Leipzig, etc. Et là, en effet, Sami Khedira, donc l'ancien champion du monde, a pété une durite à la mi-temps en disant il y avait 3 équipes, hein, il y avait le PSG, il y avait le Bayern et il y avait une équipe d'amateurs, les arbitres. Et on n'a pas le droit, on ne peut pas demander à des joueurs d'être toujours performants, d'être toujours dans la concentration, de pas faire de faute, d'être ceci et cela, lorsqu'on a un arbitrage comme on a eu ce soir. Le pire, évidemment, c'est ce qu'on appelle en Allemagne le Gelbrot, donc le deuxième jaune qui aurait dû enchaîner le rouge avec la main de Mendes. Et c'est même pas le penalty ou le mince, comment il s'appelle, le petit, là, déjà.
De Neves.
De Mendes, ouais, exactement. C'est ça, en fait, qui a, et puis, à la fin de la rencontre, il y avait Balak qui était là, et t'as le sentiment que tout ce qui lui était arrivé avec le Chelsea-Barça de 2009 est revenu, le fameux fucking disgrace là, parce que plus il parlait, plus il s'énervait et plus il montait dans les tours en disant mais c'est pas possible que ce qui est arrivé. Donc en fait, il est évident que sur la double confrontation, le PSG mérite sa qualification, mais ce fait de jeu à la demi-heure de jeu et cette non-exclusion de Mendes, je veux dire, si l'arbitrage ne veut plus rien dire, dans toutes ces conditions, on fait le classement en début de saison, on regarde Transfermarkt, les équipes les plus valorisées, et on donne le titre, quoi. Mais c'est ça qui est un petit peu problématique. Ensuite, ils sont évidemment revenus sur la rencontre et ce qui a frappé, c'est cette flexibilité du PSG que n'a pas le Bayern Munich. Donc c'est que la qualification finalement pour le PSG est méritée. Les joueurs ont quasiment tous été interrogés, notamment Konrad Leimer. On lui explique, le mec il a encore couru tout le temps pendant tout le terrain pendant 90 minutes et il dit c'est dur parce que finalement à la fin ça se joue finalement sur pas grand chose. Mais quand on regarde la rencontre de soir et qu'on se rend compte que le PSG menait 5-2 quand même, y a une qualification parisienne. Exactement. Ouais. Donc,
Manu, on va te laisser.
Oui.
T'as fait une petite prolongation là, c'est sympa. Merci Manu.
Bah, je vous en prie, les gars.
Pour la finale, c'est à 18h, donc là, on pourra t'avoir plus longtemps.
Voilà. Allez, Arfi Dazen, Arfi Dazen et tout le monde. Okay.
Salut Manu, bonne soirée. Rentrons un peu dans les détails quand même des performances côté Bayern. Polo, on avait Compagnie après le match aller qui a dit moi je changerai rien en retour. Oui. Et finalement sur les 40 premières minutes, on a l'impression que lui il voulait peut-être rien changer, mais sur le terrain c'était pas la même équipe quoi.
Ben le Bayern a eu du mal à rentrer. C'est même pas le premier but encaissé, c'est que le Bayern n'est pas rentré. Les ballons étaient mal assurés, les passes aussi. Il y avait un taux, vous savez, je regarde toujours moi, les grandes équipes ont toujours un taux de passes réussies très très important qui tourne autour de 90 minutes. Et du côté du Bayern, on tournait vers 75-77 au début, et c'était assez impressionnant. Et donc ils ont raté quasiment leur première mi-temps. Ça a été mieux le dernier quart d'heure, mais globalement ils ont perdu une demi-heure sur la rencontre. Alors comment on peut expliquer ça, c'est délicat parce que c'est quand même des équipes qui ont l'habitude, et notamment le Bayern, d'être en demi-finale de Ligue des Champions, donc c'est pas comme ça quoi, j'arrive pas bien à comprendre. Est-ce qu'ils ont joué le match avant, comme disait Vincent Compagnie, qu'il ne fallait pas jouer la rencontre avant, je sais rien. Moi ce que je vois, c'est qu'il y avait un narratif depuis une semaine qui permettait au foot allemand de se glorifier un petit peu, parce qu'on mettait le Bayern au même niveau que le PSG et on était dans la vague du match du 5-4 de l'aller et tout ça, et tout est beau, tout est merveilleux, le Bayern est le plus grand club du monde. Ce que je constate ce soir, c'est qu'ils étaient pas là au début de la rencontre, que certains joueurs, d'ailleurs j'en profite pour dire aux journalistes de RMC d'arrêter de m'appeler pour faire des émissions au Lycée Ballon d'Or, parce que ça me gonfle. Non mais c'est vrai, celui qui dit qu'au Lycée Ballon d'Or ce soir, c'est de la rigolade quand même, au bout d'un moment.
On avait prévu d'en parler, on attendait deux secondes là, mais on avait prévu d'ouvrir le dossier, Polo. De sa perte du soir, quoi.
Il rate son match ce soir, ça lui enlève pas les qualités qu'on lui a vues tout au long de la saison, mais effectivement.
Non, mais c'est pas pour ça, façon, c'est pas pour ça qu'il faut déjà le mettre.
Très, très vite. Mais bien sûr, oui,
c'est pas la première fois qu'il rate des matchs comme ça. C'est pas, faut les regarder, faut analyser.
C'est la même chose avec ce qui se passe en ce moment. Permets-moi juste un petit dégagement, pas de côté. Ce qui se passe autour de Mbappé, avec des sommets absolument ignobles de haine, avec les faux comptes et les débats qui suivent.
Et les fausses pétitions, maintenant.
Les fausses pétitions et les débats qui suivent derrière, indique donc que Olysée, Dembélé, enfin la terre entière doit prendre la place de Mbappé en équipe de France, alors que ce sont des joueurs qui n'ont pas les références de Mbappé en équipe de France. D'un côté on les entend dire ah mais le foot de sélection c'est pas comme le foot de club. Donc en gros, à chaque fois qu'il faut défoncer quelqu'un, on retourne l'argument comme on veut. Bah si le foot de sélection n'est pas le football de club, donc les joueurs qui sont très bons en club n'ont pas encore montré qu'en sélection ils étaient au niveau pour le mettre dehors, puisque certains font des débats pour le mettre dehors. Donc on va essayer de se calmer un petit peu, parce que désormais ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on atteint des sommets absolus de bêtises. Les intelligences artificielles créent même des pétitions. Il y a des gens qui ont dit qu'on pouvait voter 100 fois en une seconde, la fameuse pétition anti-Mbappé. C'est dire à quel niveau on est arrivé. Et donc, et les fameuses, je reviens maintenant à ce que tu disais, Olysée, j'ai adoré sa saison, j'aime la façon dont il touche le ballon, j'aime son match aller. Ce soir, il passe au travers. Je vais pas dire ce soir qu'il est mauvais, et j'ai pas dit la semaine dernière qu'il était ballon d'or. En revanche, si j'ai le droit de dire je veux qu'il soit titulaire en équipe de France, ok, pas de problème pour ça. Mais de là à dire ballon d'or, machin, et tout ce qu'on a entendu, mais oui, mais aujourd'hui, c'est ça, malheureusement, Polo, et tu le sais mieux que moi.
Alors, Samuel, tu vas.
Moi, je le sais pas parce que je veux pas en entendre, mais.
Oui, voilà, mais bon.
De ballon d'or, ça va tellement vite. Même quand on parlait là de Kylian, je pense que les gens oublient tellement ce qu'il a réussi à faire en équipe de France, alors que ces joueurs-là, on parle d'Olysée, oui, c'est très beau ce qu'il fait, il enchaîne des saisons où il est performant. En équipe de France, Kylian, ce qu'il fait, il y a personne qui l'a encore fait. Donc, faut respecter aussi le bonhomme, mais ensuite, de parler d'Olysée ballon d'or, ça va trop vite. On peut dire que sa saison, elle est réussie, des passes décisives, des buts, il a été présent tout au long de la saison. Ok,
mais saison remarquable.
Voilà. Mais je pense qu'il faut doser. Même de parler de, il va prendre la place de Kylian, même Ousmane. Non, je pense que chacun connaît son rôle. Chacun aussi connaît le rôle de Kylian et ce qu'il est capable d'apporter. Même si là, il est dans une période où au Real, parce que collectivement aussi, ça ne va pas. Mais les qualités que Kylian a, est-ce qu'il est capable d'apporter en équipe de France?
quand même. Ce qui est terrible, c'est la façon dont on veut l'abattre.
Oui, mais on veut l'abattre.
Il y a des gens qui veulent l'abattre. On veut l'abattre
pourquoi?
Carrément.
On veut l'abattre pourquoi?
Bah, un jour, il faudra qu'on essaye de m'expliquer réellement pourquoi on veut. Parce que qu'on n'aime pas quelqu'un, oui, mais vouloir l'abattre, ça, j'ai plus de mal à comprendre.
Timéo, t'as une théorie?
Ouais, non, moi, juste pour revenir sur Olise, aujourd'hui, un peu transparent, mais à l'image un peu de l'équipe, match aller, il brille, à l'image de l'équipe. C'est pour ça que moi, je suis d'accord avec toi, Samuel, hein, faut un peu calmer le jeu. C'est un très bon joueur, on peut pas le nier. Mais de là à vouloir le remplacer par des très bons joueurs qui ont fait leurs preuves auparavant, pour moi, c'est pas possible.
Dans un instant, on va continuer l'évaluation ensemble. On va parler aussi de Luis Diaz et des autres joueurs du Bayern avec Polo. Et puis l'actu du jour avec toujours un peu d'actu marseillaise. Il y en a tous les jours en ce moment. Hein.
Même pas un mot sur la grande affiche, la seule vraie grande affiche de la semaine demain soir? Il n'y aura pas un mot dessus?
Rayo Vallecano, Strasbourg? Si, si, c'est prévu.
Strasbourg, Rayo Vallecano.
Strasbourg. Ouais. J'y serai d'ailleurs.
Bah, j'espère bien que tu seras.
Allez, à tout de suite.
C'est la seule chance de s'en sortir.
Chat noir ou pas, on verra.
RMC jusqu'à minuit 30, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est minuit 18, encore un petit quart d'heure ensemble avant les nuits du Casar enchaîné qui arrivent. Je ne sais pas dans quel état on va retrouver Julien tout à l'heure, mais il sera là. Daniel Riolo, en attendant, bien sûr, est là. Samuel Umtiti, Timéo, supporter du PSG avec nous ici au Dopo. Et Polo Breitner, évidemment, pour finir l'analyse du match entre le Bayern et le PSG. Donc Polo, toi tu dirais que c'est avant tout les individualités qui n'étaient pas au rendez-vous. On a parlé d'Olise, il y a Luis Diaz.
Je ne sais pas si vous avez vu, est-ce que ce soir vous avez vu un centre arriver à destination du côté du Bayern?
Et écoute,
même des passes, sans parler de centre, même des passes, il y a tellement de passes.
Donc au bout d'un moment, il y a eu deux échecs flagrants pour moi dans cette rencontre. C'est Moussiala qui a été plus que mauvais. Moi, j'espérais la rentrée de Karl le plus rapidement possible. Et puis Olise qui a déçu, je trouve. Alors tout est relatif, hein, évidemment, quand on voit la qualité technique qu'ils ont. Luis Diaz nous a fait toujours la même chose. Luis Diaz nous a fait toujours la même chose sur son côté gauche, alors que je pense qu'il pouvait rentrer côté droit. Il a toujours cherché le petit côté systématiquement. Enfin, je sais pas. Enfin, ce soir, en fait, moi, où je suis impressionné, c'est par la défense du PSG, en fait, qui a tout verrouillé contre un Bayern qui était, c'est pas qu'il était amorphe, c'est que, mais des matchs comme ça en demi-finale de Ligue des Champions, j'en ai vu plein du Bayern comme ça. On peut remonter dans les années 90 contre l'Étoile Rouge, des trucs comme ça. Il y a plein de matchs parfois où ça veut pas fonctionner, ça veut pas tourner. Tu te prends un but dès le début. Le meilleur joueur du Bayern, c'est Neuer, hein, faut quand même pas l'oublier. Et ce soir, Kimmich, il trouvait pas les espaces. Pavlovic, il était pas complètement sécur. Tu avais heureusement Harry Kane égalise sur l'une des rares occasions qu'il a. Je trouve que on n'a pas vu un grand match du Bayern. Maintenant, je pense que c'est à cause de ce qu'a fait le PSG, ou c'est grâce plutôt à ce qu'a fait le PSG, et notamment le fait qu'on a vu un festival offensif lors du match aller et que là, on a vu une équipe hybride capable de faire différentes choses et ce que n'est pas capable de faire le Bayern.
Donc, il y a un truc, les gars.
Après, je trouve que moi, ça a manqué. Tu joues chez toi, retour de demi-finale de Ligue des Champions. Ça manquait de folie. Vraiment, le Bayern, je les ai trouvés peut-être amorphes, mais ça manquait totalement
alors
de folie.
Alors qu'à l'aller, on a eu que ça.
Exactement. Alors qu'à l'aller, et tu te dis au match retour, oh, ça va être encore.
Mais c'est aussi le PSG qui ne l'a pas autorisé, la folie.
Je suis d'accord.
En descendant le bloc.
Mais pour avoir la folie, il faut avoir une justesse technique tout le temps. Et là, cette justesse technique là, il l'avait pas. Dans des passes simples, il ne l'avait pas. Dans des passes un peu plus compliquées, je peux l'entendre. Mais même dans des dribbles, ça passait pas. Parce que là, oui, je te rejoins, le Paris Saint-Germain, défensivement, a été très fort dans l'impact, dans l'engagement. Et c'était impossible pour cette équipe du Bayern.
On s'est enflammé la semaine dernière à tirer des grandes conclusions sur ça y est, peut-être le nouveau football. Certains ont pas aimé, beaucoup ont adoré. Et puis finalement, match retour, alors que globalement, on se disait, tiens, est-ce que ça va continuer? On n'a pas du tout vu la même chose. Donc, comme quoi, ce qui se passe.
Bah, c'est possible aussi.
Quelle conclusion tirer?
Il fallait s'attendre à ce que le match soit forcément pareil.
Non,
pourquoi?
Mais c'est possible aussi que le Bayern soit en train de tirer la langue sur la fin de saison. Hein. Moi, je constate que le nombre de kilomètres que court le Bayern est beaucoup moins impressionnant que ce qu'il faisait tout au long de la saison, depuis quelques journées. Le débat sur les nombres de buts encaissés qui n'existait pas, je rappelle que pendant 95% de la saison, le Bayern était, et de loin, la meilleure défense de Bundesliga. Ils sont fait exploser complètement lors des dernières journées. Donc on mettait ça sur le compte des remplaçants et du turnover. Il est fort possible. Mais en fait, ce qui se passe en ce moment,
avec le 4-3 à Mayence, la victoire 4-3 à Mayence, le 3-3 de ce week-end, me fait beaucoup penser à ce qui était arrivé avec Pep Guardiola en 2015, lorsqu'il avait enchaîné lors de la je sais plus, c'était contre le Barça ou le Real, 4 défaites à la suite. Il perd en demi-finale de, tout allait bien, tout le monde se préparait, etc. Et il perd 4 matchs à la suite en fin de saison. On sait pas pourquoi. Évidemment, il gagne la Bundesliga, mais il perd la Ligue des Champions. Il est éliminé de Ligue des Champions. Et la période en ce moment me fait un petit peu penser à ça. Mais j'ai pas de preuves matérielles. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai trouvé un Bayern un peu fatigué. Voilà, pas là, pas comme il fallait. Ils font beaucoup plus mal d'habitude. Ils ont dominé le milieu de terrain lors du match aller, match retour, c'était très très compliqué. Donc évidemment, Luis Enrique a le droit d'ajuster son équipe. C'est pas parce qu'on voit bien que sur le contre-pressing et sur le pressing aux 30 mètres, c'était assez impressionnant parce que c'est le PSG qu'ils avaient évidemment étudié les circulations de relance à partir de Manuel Neuer. Mais je suis un peu déçu en fait de ce que j'ai vu ce soir, mais c'est sûrement grâce au PSG.
Bon, un mot d'Upamecano, parce que c'est quand même, on le suit de près, en vue de la Coupe du Monde, on avait été dit tyrambique la semaine dernière. On est un peu moins.
Je n'ai pas vraiment d'inquiétude sur lui, hein. Ouais, moi, aucune inquiétude, c'est un super défenseur, il n'y a aucune raison.
C'est l'un des meilleurs du monde en ce moment, donc il n'y a pas de vrai problème. Moi, c'est, de toute façon, les centraux qui montent comme ça, qui arrivent à montrer, et qui arrivent à monter, etc., et qu'on les juge parce qu'ils font une faute de temps en temps, c'est moi, bon. Bof.
On pourra noter les choix, on n'en a pas parlé, de Compagnie à un moment.
Qui sont les défenseurs?
Ouais, de changer le central. Donc je me suis dit...
En fait, il fait descendre Pavlovic.
Il est vraiment connu pour être meilleur de la tête. Si on dit on va balancer des ballons devant, quelle était l'idée?
Jonathan Tah, c'est parce qu'il avait pris un jaune, je pense, et comme il pensait que c'est des... Je suis Bodork, hein, que Compagnie estimait que plus ça allait avancer, plus ces défenseurs centraux allaient se retrouver en un contre un et qu'il y avait une risque d'une faute, etc. Donc... Jonathan Tah soit sorti, bon évidemment le fait de le remplacer par Minier n'est pas un avantage, mais en fait il fait reculer Pavlovic sur la fin de rencontre, ce qui lui permet d'amener Davis, Jackson et puis Karl pour les 5 dernières minutes. Mais moi j'aurais aimé
Laimer, ils ont pas inversé de côté Laimer et
Stanisic.
Si,
ils ont inversé parce que Stanisic était en difficulté au début contre Kvara et
mais donc il y a eu ce choix est notable aussi. J'ai tout de suite je me suis demandé également pourquoi. Je me suis dit que c'était pas par rapport à Kvara, quoi, mais je trouve toujours bizarre quand pour un match aussi important on change des choses alors qu'on peut pas dire que le Bayern n'avait pas bien fonctionné la semaine dernière, quoi.
Ouais, mais Stanisic aussi, il y a peut-être aussi dans ces grands matchs, c'est là où tu vois la limite de certains joueurs, hein, c'est toujours pareil. Moi Stanisic, il a un développement assez intéressant, de là à en faire un grand latéral alors que c'est un central de formation. Ça fait partie de ces défenses à 4 avec trois défenseurs centraux, c'est très limite, ça passe en Bundesliga, ça passera pas contre le Real, le PSG ou Manchester City quand ils seront à leur niveau, quoi. Donc c'est ça le problème. Et Laimer, c'est pareil, c'est quand même le couteau suisse qui joue partout. Je pense que cet été évidemment il y aura une vraie réflexion, faudrait-il encore que Davis revienne à son vrai niveau, mais au minimum au poste d'arrière droit, il y a des réflexions à mener pour le, mais faut voir, parce que là honnêtement quand le Bayern, là, j'ai écouté Compagnie tous les joueurs après, la déception est très très grande en fait.
Je comprends Polo.
Ouais, parce qu'ils sentaient que c'était pour eux et finalement le PSG était plus fort.
Ils avaient l'impression que cette année c'était la bonne année parce que d'une ils jouaient remarquablement bien, que le groupe est bon, parfait, Compagnie a trouvé la façon de gérer tout ça, et surtout là où le PSG a une équipe jeune où tu te dis bon bah si les mecs veulent pas se barrer ils peuvent continuer un petit peu ensemble, mais au Bayern il y a des joueurs sur lesquels tu peux, au minimum, enfin, je sais pas si on peut parler de doute, mais tu dis bon, Kimmich, ça fait des années qu'il est là maintenant, est-ce que l'année prochaine il va être encore bon, Neuer, il va falloir trouver quelqu'un d'autre, Harry Kane n'est pas tout jeune non plus, c'était vraiment pour ces joueurs-là, c'était le moment de la récompense, tu vois.
Oui, mais
c'est le moment de la récompense pour ces mecs-là.
Oui, mais tu aurais pas dit ça en début de saison. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je n'arrête pas de dire que c'est ce qui s'est passé cette saison pour le Bayern. C'est quand même une sacrée surprise parce que le niveau de Compagnie 2 par rapport au Compagnie 1 est indiscutable. L'évolution de certains joueurs, le retour de Gnabry, de Joshua Kimmich, de Goretzka. Enfin, Goretzka,
après, la blessure de Gnabry, ça a été très préjudiciable parce que Moussiala, on l'a jamais revu.
Mais Moussiala, il revient de blessure aussi.
À ce stade, d'une saison, il faut quand même dire que le PSG a toujours été au complet. Et quand on parlait de prépa, de la façon dont la saison s'est déroulée, et le PSG s'est retrouvé dans les matchs importants avec son 11. Le Bayern, qui a été impressionnant toute l'année, dans une compo qu'on pouvait donner les yeux fermés, il se trouve que au moment de jouer le PSG en demi,
Il leur manque Serge Gnabry. Ouais. Et Serge Gnabry, remplacé poste pour poste par Moussiala, qui a raté quasiment toute la saison blessé. Pardon, mais ça, je crois qu'on l'a mentionné ni à l'aller ni au retour. C'est injuste de ne pas le mentionner. Mais c'est un joueur clé qui manquait au Bayern quand même.
Mais,
allez, ouais, on
mais
sur
avec,
cette
mais
double si, confrontation, je veux dire.
Les gars, le temps passe. Polo, merci beaucoup.
Oui, ciao, ciao.
Et à très vite pour reparler footallement ensemble. On a encore deux petites minutes, les gars. Donc demain, on pourrait avoir une autre équipe en finale de Coupe d'Europe. C'est pas fou ça, en l'espace de 48 heures.
On va la voir.
Ouais, je pense.
On va la voir.
Alors sans Emega, sans Guéladoué.
N'en dis pas plus, passe à autre chose.
Sans Guéladoué qui n'est pas là.
Moi, je pense qu'on peut déjà faire un jump. On démarre l'after dès maintenant.
Normalement.
Bon, alors Strasbourg est en finale.
Normalement, Barco est là.
Alors que tu veux de plus.
Bon, t'as joué au Rayo.
J'ai déjà joué contre, en tout cas face à cette équipe. Et comme j'avais dit, chez eux, c'est très dur. Très, très dur.
Cette année, ni le Barça, ni Madrid n'a gagné. Non, hein.
C'est très dur. Terrain petit, c'est injouable là-bas. Et je sais qu'à l'extérieur, ils ont du mal. Et si Strasbourg...
Ils ont perdu 3-1 le tour d'avant, avec Athènes, par exemple.
Si Strasbourg joue son jeu avec ses joueurs, avec l'intensité qu'ils sont capables de mettre pour aller les chercher, et techniquement
merci,
d'être
Samuel,
bon.
Je vais bien dormir.
Non, honnêtement, je pense que Strasbourg a la capacité vraiment de gagner et d'aller en finale. Ouais.
Je voulais également vous signaler que Lens-Nantes vendredi sera très compliqué pour Lens parce qu'il y a plein de suspendus. Thomasson, Sangaré, Abdelhamid, et on apprend aujourd'hui que Thauvin et Saint-Maximin sont forfaits, eux aussi. Donc on aura une équipe de Lens très diminuée. Face à Nantes. Dimanche soir, on aura la Ligue 1 et en même temps, il y aura le Classico. Hein. Barça-Real, aujourd'hui, on ne sait pas encore si Mbappé pourra jouer, c'est une des infos du jour. Et puis au Real, c'est toujours aussi chaud. La presse espagnole explique que Tchouaméni et Valverde ont failli se battre à l'entraînement aujourd'hui.
Waouh. Quelle ambiance.
Voilà, donc c'est chaud. Puis sinon, dernière info, le sélectionneur du Canada, Jesse Marsh, a qualifié aujourd'hui De Zerbi, je cite, de connard et de trou du cul. Quand même.
Pourquoi les deux?
Pourquoi les deux, je ne sais pas, mais c'est...
Connard, c'est assez, non?
À propos de sa gestion de...
Qu'est-ce que ça ajoute, trou du cul, connard, en fait?
À propos de sa gestion d'Ismaël Koné. Parce que Ismaël Koné est un pilier de l'équipe du Canada.
Oui,
il estime qu'il a très mal géré Koné, qui était parti à Sassuolo, rappelez-vous. Donc, Jesse Marsh a allumé De Zerbi. Julien Cazard est là. Julien, bonsoir.
Oui, bonsoir, bonjour à tous.
Serein, Julien, tranquille, décontracté?
Tranquille, comme d'hab, en finale, comme d'hab. Normal.
Qu'est-ce qu'il y a? C'est devenu commun.
Non, par contre, c'est que je suis embêté pour Kimmich parce que ça fait quand même 14 fois que la meilleure équipe a encore perdu. C'est quand même fou parce qu'à chaque fois, il dit que quand il perd, il dit que c'est la meilleure équipe qui a perdu.
Ah, il a dit ça?
À chaque fois qu'il perd, lui, il dit, la meilleure équipe a perdu. C'est dommage. C'est con. Peut-être, du coup, c'est peut-être un peu moins la meilleure équipe. Du coup, je sais.
Et lui, il est toujours dans la meilleure équipe.
C'est dommage. C'est pas de bol. Non, mais voilà, on est encore en finale. Oh. On est blasé. Puis plus rien.
Tu vas aller à Budapest?
Ah bah oui, de toute façon j'y serai allé quand même. Je te préviens. Ah oui, moi j'y vais, moi je m'en fous. Bien sûr, évidemment. Pour moi, ça y est, c'est plié là. Les Anglais, c'est bon, c'est dans la poche.
On en reparle dans les nuits du Casar enchaîné tout de suite. Merci Daniel, merci Sam, Timéo, salut, à la prochaine.
À la prochaine.
Et demain on sera là nous dès la fin du match. Strasbourg-Rayo Vallecano, bien sûr, avec, on l'espère, une deuxième finale.
Au revoir.
Oh. RMC jusqu'à 12h30. L'After Foot.